Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Conférence sur Radio Certitude, c'est la diffusion de l'enregistrement d'une conférence. Comment recevoir la guérison divine? C'est le thème abordé par le pasteur Pierre Truchel.
J'aimerais parler cet après-midi donc de la guérison divine, ce que cela veut dire. Bon, je vais résumer, mais je voudrais surtout qu'il y ait une claire persuasion au fond de chacun d'entre nous. Je voudrais rappeler que l'espérance n'est pas la foi. Croire que Dieu va le faire, ce n'est pas la foi. Savoir que Dieu l'a fait et qu'il va me le donner, ça c'est autre chose. Il y a donc le grand problème que vous et moi nous rencontrons, surtout au sujet de la guérison, où il y a tellement d'aléas, où il y a tellement de surprises, j'allais dire où il y a tellement d'échecs également, eh bien nous prenons nos expériences et les réalités que nous vivons, nous avons tendance à les mettre à la place de la parole de Dieu. Et nous nous laissons influencer, moi comme les autres, on se laisse influencer en ce qui concerne la parole de Dieu par les réalités parfois négatives que nous vivons, et nous avons tendance, consciemment ou inconsciemment, à ménager alors, à faire des compromis avec les Écritures. Et j'aimerais ce soir vous apporter les Écritures, parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas nous qui, c'est pas Dieu qui ment, c'est pas Dieu qui se trompe. Quand Dieu prend des engagements, il les tient. Sa parole est la vérité. Il n'y a pas de paille et de froment dans la parole de Dieu. Il n'y a pas des choses qu'il dit pour ne pas les faire. Dieu est très affirmatif dans beaucoup de choses. Et il est également affirmatif en ce qui concerne la guérison divine. Et j'aimerais dire que dans notre époque, nous devons absolument restaurer la notion de la guérison divine face au nouvel âge, face au surnaturel occulte qui pullule dans les médias, qui pullule dans les journaux, qui pullule dans les rencontres, qui pullule dans la jeunesse. Et si nos églises ne sont pas capables de manifester la puissance, toute la jeunesse et toute la génération va filer entre les mains du diable. Donc, c'est un défi à la fois de salut de tous ceux qui se tournent vers l'orientalisme et vers l'occultisme et vers le nouvel âge. C'est ce défi que je crois que Dieu permet, parce que l'Église est devenue beaucoup trop intellectuelle. Elle connaît les choses doctrinalement, mais la puissance de Dieu semble avoir pas mal disparu. Au temps de Jésus, les gens étaient plus ouverts à la guérison qu'au pardon. Et pour nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. Car nous sommes, par tout un héritage socio-culturel, nous sommes influencés par la pensée grecque et le mépris du corps. Et j'ose peut-être le dire, l'éloignement parfois de nos églises, de Dieu, l'éloignement où le système accéléré de vie que nous vivons, les pressions de la société font que beaucoup de chrétiens prient beaucoup moins. Il y a des statistiques qui ont montré que le corps pastoral dans le monde prie un quart d'heure par jour. C'est la moyenne. C'est largement, largement insuffisant. Nous sommes loin de ces apôtres qui disaient « Il n'est pas convenable que nous servions aux tables. Nous ne voulons pas abandonner la prière et la prédication de la parole de Dieu. » Et il y a tout un retour vers la communion avec Dieu. Le temps à prendre dans la communion avec Dieu, ça coûte. Il faut laisser de côté autre chose pour que l'onction soit là. L'onction, ça ne se crée pas. L'onction ne se crée pas par des techniques. L'onction, j'insiste lourdement toujours à nouveau, l'onction ne se crée pas avec des techniques. L'onction se crée dans une relation personnelle avec Dieu, où parfois il faut jeûner, parfois il faut prier. Et les techniques qu'on nous enseigne, qui sont justes, dans la mesure où elles ne sont que le canal harmonisé par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la technique qui amène l'onction, c'est l'onction qui va s'exprimer au travers de la technique spirituelle que le Seigneur me donnera au moment où cette onction veut se manifester. Donc, ma communion avec Dieu va peut-être entraîner la louange, ma communion avec Dieu va peut-être entraîner le jeûne, ma communion avec Dieu va peut-être entraîner la proclamation, ma communion avec Dieu va peut-être tout simplement entraîner des dons spirituels, l'exercice des dons spirituels. C'est d'abord la communion avec Dieu et ensuite l'action pratique. C'est important que nous comprenions cela, mais c'est également important d'être sûr de nos convictions. Parce que, d'autant plus que, au niveau de la maladie, vous savez, quand le médecin vous dit que vous avez un cancer, là, on voit que la foi, c'est pas rien du tout, hein. Et donc, il faut être sûr. Et c'est ça, je crois, que le grand problème que vous et moi nous rencontrons. Et je dirais que parfois, dans le tiers monde, les gens n'ont beaucoup moins de problèmes que nous. Parce que dans certains pays que j'ai visités, un microbe, ça n'existe pas parce qu'ils ne le voient pas. Mais nous, on ne le voit pas, mais depuis longtemps, on nous a expliqué que nous avions créé un microscope et que là, ça existait. Donc, nous avons toute une sorte de connaissance du monde matériel qui existe, on nous a tellement fait attention au vaccin depuis tout gosse. On est marqué par cet enseignement, par ce côté qui est juste humainement parlant, hein, mais qui nous a imprégné en tant que chrétien, sans même nous en rendre compte. Et quand le mal vient, on réagit humainement. Et je voudrais donc cet après-midi donner donc priorité au plan de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse inscrire en vous des certitudes. Dieu a soufflé de son esprit dans un corps et cela donna un être vivant formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps, donc le spirituel, le psychique et le physique. Le péché entraîna la mort dans l'esprit, c'est la mort spirituelle. Le péché entraîna la mort dans l'âme, c'est la mort intellectuelle, c'est la séparation avec Dieu au point de vue de la nature, du psychisme, c'est la maladie psychique. Et puis le péché entraîna la maladie dans le corps, avec comme conséquence plus grave la mort. Le péché a entraîné la mort et l'antichambre de la mort, c'est la maladie, bien souvent. Et, si vous voulez, c'est donc le péché qui a rendu notre esprit malade, c'est le péché qui a rendu notre âme malade et notre esprit, et le péché a rendu également notre corps malade pour ceux qui sont malades. Alors, en Jésus, Dieu s'est incarné en tant qu'être humain, en tant qu'esprit, âme, dans un corps, en tant qu'esprit, dans un corps, et l'ensemble est devenu une âme vivante. Donc, Jésus s'est incarné esprit, âme et corps pour nous guérir et nous libérer dans notre esprit par la nouvelle naissance et la purification, par la régénération de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et il est venu nous libérer dans notre âme par la guérison intérieure, psychique, émotionnelle. Et il est venu nous guérir dans notre corps par la guérison physique et les délivrances. Quand je prononcerai le mot de délivrance, c'est de délivrer de l'oppression démoniaque. On peut être malade sans avoir un démon, mais on peut aussi avoir une maladie qui ne partira que si le démon qui en est la cause est chassé. Jésus a racheté l'être entier, et il a porté nos péchés en son corps et s'est chargé de nos maladies, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et alors, je vais préciser maintenant quelque chose d'important qui trouble nous tous quand nous sommes confrontés à la maladie. Est-ce que la guérison est pour l'éternité, puisque la parole de Dieu nous dit que nous attendons la rédemption de notre corps? C'est-à-dire que nous attendons la résurrection de notre corps, la transformation de notre corps, d'un corps corruptible en un corps incorruptible, d'un corps infirme en un corps glorieux. Et là, pour beaucoup de chrétiens, d'ailleurs sincères, ils pensent que la maladie n'est pas forcément guérie sur cette terre, mais qu'elle sera pleinement enlevée par la résurrection des corps, où notre corps donc sera transmétamorphosé, si vous voulez, en un corps incorruptible, plein de gloire, ressemblant au corps de Jésus. Mais, j'aimerais vous dire cet après-midi que si nous attendons la rédemption de notre corps par la résurrection, la santé divine, c'est-à-dire la santé divine, c'est être protégé de la maladie, ne pas être guéri de la maladie, mais être protégé que la maladie ne vienne pas, la santé divine et la guérison divine de nos maladies ont été accomplies pour ce temps présent. On n'aura plus besoin de guérison là-haut, on n'aura plus besoin de guérison dans le ciel. La parole de Dieu, dans l'original, à la fois hébreu, à la fois grec, est très claire. Quand Dieu dit qu'il est l'Éternel qui guérit, il guérit maintenant. Hein? Et quand Ésaïe s'est chargé de nos maladies, on va le voir, c'est pour maintenant. Quand, par exemple, un exemple très simple, le grand problème, souvent on se dit, mais est-ce que c'est pour la résurrection? Quand Jésus a été dans la synagogue de Nazareth, vous rappelez, quand on lui a donné le parchemin à lire, la loi à lire, il a ouvert au niveau du prophète Ésaïe 53, et il a pris le texte, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour briser les chaînes des captifs, publier une année de grâce de la part du Seigneur, donc délivrer les opprimés, etc. Et ce qu'il voulait inciter, c'est que quand Jésus a arrêté, il a fermé le parchemin, puis il a dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Elle est accomplie aujourd'hui. Elle n'est pas accomplie à la résurrection des corps. Cette prophétie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce ministère du Christ, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce ministère de guérison, ce ministère de libération, ce ministère de délivrance, ce ministère de guérison a été accompli au moment où Jésus a commencé son ministère, lorsqu'il dit « cette parole est accomplie aujourd'hui ». Donc nous n'avons pas à attendre que quelque chose doit se faire dans l'avenir pour que la guérison soit accomplie. Nous devons savoir que le ministère de guérison est pour notre temps, le ministère de guérison est pour l'Église, le ministère de guérison, ce sont les prémices, ou plutôt la guérison fait partie des prémices du salut total que nous allons vivre plus tard, comme les arts de l'esprit par la réception du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Nous recevons les arts de l'esprit, nous n'avons pas encore la plénitude, toutes choses ne nous sont pas soumises encore, mais nous avons goûté à ces choses, nous avons goûté aux prémices, et la guérison divine est une de ces prémices dans notre corps. Donc, c'est un peu les prémices de la transformation future de notre corps. La guérison divine est pour maintenant. Dieu, je disais aussi également, Dieu a promis d'éloigner la maladie de son peuple. Je le disais ce matin, quand Dieu a dit à Israël qu'il éloignerait la maladie du milieu de lui, c'était réel. Dieu ne raconte pas des bobards, ne raconte pas des blagues. Il avait réellement décidé d'éloigner la maladie du milieu du peuple. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que l'Alliance d'aujourd'hui, ou plutôt l'Épître aux Galates, nous dit que l'Épître aux Hébreux et l'Épître aux Galates nous rappellent que l'Alliance, la nouvelle Alliance, est supérieure à l'ancienne. Et si déjà dans l'ancienne alliance, il y avait les promesses de guérison, de restauration, même de bénédiction matérielle, à combien plus forte raison la nouvelle alliance en Jésus-Christ étant supérieure, eh bien donne, promet également encore plus que cela, la guérison, mais également la capacité de guérir les autres, la bénédiction matérielle, cela fait partie. Il faut bien noter, nous sommes souvent marqués par le dispensationalisme, et je crois qu'il y a une certaine forme de dispensationalisme, mais il faut savoir que vous ne pouvez pas couper, disons, l'Ancien Testament, c'était la guérison, c'était la prospérité, c'était là le Nouveau Testament, c'est le problème, c'est que le spirituel, c'est que là-haut, que ça va se passer, il faut que je sois pauvre, il faut que je vois plus ma spiritualité grande, plus je suis pauvre, c'est complètement faux. Il y a des choses qui sont liées de l'ancien au nouveau. Il y a une vie permanente qui part de l'ancien au nouveau. Et la vie permanente, c'est les promesses de bénédiction matérielle, promesses de bénédiction spirituelle, promesses de bénédiction physique. Le seul problème que j'aimerais souligner, c'est ce que j'ai voulu expliquer quand j'ai parlé de la prospérité, de la fausse notion de la prospérité. Un chrétien qui marche avec Dieu prospère. C'est sûr, il dépense moins, la bénédiction est sur son travail, sur son salaire, il donne sa dîme, donc il y a des promesses pour la dîme. Donc un chrétien prospère. S'il ne fait pas, s'il va, ce qui est simplement ce que je voulais dire, c'est que nous devons faire attention que cette prospérité soit pas pour nous un piège, pour nous donner l'amour du monde et la convoitise des yeux, mais que cette prospérité doit toujours à nouveau être utilisée pour la gloire de Dieu, pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, puisque nous sommes sur la terre pour gagner le maximum d'âmes avant le retour du Seigneur. Donc, la prospérité existe, sauf pour certains. C'est bon, les ministères, vous avez des gens qui ont, comme l'apôtre Paul, n'a jamais pu penser pouvoir se construire un château en Espagne. C'était pas possible, c'était pas sa vocation, c'était pas son ministère, c'était pas son objectif, il est toujours en bougeotte. C'était pareil pour le Seigneur Jésus, il s'est fait pauvre. Il n'était pas pauvre spirituellement, Jésus. Il était pauvre physiquement pour que vous et moi, nous puissions nous enrichir par sa grâce. Donc, il y a la vision de la bénédiction matérielle de Dieu. Mais cette vision matérielle n'est pas comme le monde pense, plus je reçois, plus je suis heureux. Non, plus je reçois, c'est plus je peux donner. Donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et comme tout ouvrier mérite salaire, on n'emmusellera pas le bœuf qui foule le grain. Eh bien, un équilibre, ceux qui gagnent beaucoup, eh bien, on le droit également à aussi utiliser peut-être plus d'argent que ceux qui gagnent moins. Il y a un équilibre juste devant Dieu. Vous allez dans un pays pauvre, vous ne pouvez pas rouler en Rolls-Royce. Vous allez dans un pays où tout le monde circule en avion, une Rolls-Royce, ça ne fera pas trop de dégâts. Donc, je veux dire, il y a à se placer selon l'harmonie. Il faut pas faire non plus pitié devant des gens. Il faut pas non plus qu'on dise c'est ça le christianisme, alors j'ai pas envie. Nous devons toujours nous adapter au milieu environnant, nous faire tout à tous pour en gagner le maximum. Ça, un petit peu, parfois, ça qui est un peu triste, parfois dans les pays pauvres, où certains viennent avec la prospérité, en venant de l'étranger, ne réalisant pas qu'il y a des gens pauvres et on joue les riches au milieu de gens qui sont pauvres. Ça, c'est une hérésie qui fait beaucoup de mal, mais il est certain qu'en Afrique, par exemple, je ne pourrais pas vivre sur le même standing que je vis chez moi, et pourtant, je n'ai pas un grand standing, mais j'ai un appartement, j'ai un logement, j'ai une voiture, j'ai ceci, j'ai mes aises, sans être dans le luxe. Mais la même chose, je ne pourrais pas la vivre comme cela en Afrique, parce qu'à côté de moi, à 2 mètres à côté, il y a quelqu'un qui n'a rien à manger, et je ne me vois pas en train d'avoir même une certaine prospérité, alors que l'autre est à côté. Je m'adapte. C'est ça l'amour du prochain. Donc, vous comprenez l'équilibre que je voulais souligner au niveau de la prospérité. Mais c'est vrai que le chrétien est appelé à prospérer. C'est dans la nature des choses. Hein? Et parce qu'il a la bénédiction de Dieu avec lui. Et bien, c'est la même façon que vous êtes appelé à prospérer matériellement, vous êtes appelé à prospérer physiquement et spirituellement. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit à tous égards et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Cela, il faut le comprendre. Et quand Dieu a promis à Israël d'éloigner la maladie, eh bien Israël pénétrait en Canaan, un pays rempli de sorcellerie, de culte des morts et de tout ce que vous voulez. Ça n'a pas empêché Dieu de maintenir sa promesse et d'épargner pendant tout un temps à Israël la maladie. Eh bien, de la même façon, nous vivons dans un monde pourri, couché sous la puissance du malin. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, nous sommes délivrés du monde, délivrés de Satan. Celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde, donc on s'en fiche de ce qu'il peut y avoir autour de nous. Nous, nous sommes condamnés à être en bonne santé, nous sommes condamnés à prospérer, qu'importe notre environnement, parce que le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra venir. Nous devons avoir cette tournure d'esprit-là. Ceci, je vais continuer encore. La maladie est décrite dans la Bible comme une œuvre du diable, soit comme conséquence de nos péchés, dont le premier péché vient par l'instigation du malin, soit les conséquences des péchés de la famille, les liens héréditaires, physiques ou occultes, soit notre environnement dans ce monde de ténèbres, soit même par un esprit, comme je le disais tout à l'heure, qui nous rend malades. Il y a des esprits qui rendent malades. Je me rappelle une fois, j'avais prié, j'avais chassé dans une réunion, j'avais chassé un esprit de maladie. Il y avait là, dans l'auditoire, un homme tuberculeux, et il a vomi. Le lendemain matin, il était totalement guéri de sa tuberculose. Il y a des esprits qui rendent malades, mais toutes les tuberculoses ne viennent pas d'un esprit, hein, mais il y a des esprits qui rendent malades. La maladie peut également être permise par Dieu comme une discipline, par exemple, l'exemple très clair de la parole de Dieu, de la Sainte Cène. Ce matin, il nous en a été parlé encore, de cette invitation de Dieu à mettre notre vie en ordre au moment où on prend la Sainte Cène, parce que c'est la puissance de Dieu où elle te guérit, où elle te tue, quoi. Comme ça, hein, ça y est, la vraie puissance, comme le vrai amour, n'est jamais neutre. Hein. C'est ou c'est vrai ou c'est faux, ou c'est positif ou c'est négatif. Et la puissance de Dieu, elle te guérit, ou ta puissance de Dieu, elle te frappe. Et ça, et donc, la Sainte Cène est, j'allais dire, le verset le plus évident dans la Bible, qui explique, pour la plupart du temps, qui explique bibliquement, clairement, noir sur blanc, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont malades. C'est parce qu'ils prennent mal la Sainte Cène. Et l'apôtre Paul dit même qu'un grand nombre sont morts. Vous n'avez pas 36 autres explications dans la Bible. L'apôtre Paul dit, parce que certains ne discernent pas le corps du Christ, bon, matin il a été rappelé, son frère de sang, les problèmes d'animosité, problèmes de relations rompues, problèmes de pardon, problèmes de péché maintenu. Lorsque je touche, en prenant le pain et le vin, lorsque je touche à la sainteté de Dieu, elle me foudroie ou elle me guérit. Nous resterons toujours responsables. Et Dieu va parfois permettre la maladie, voire même la mort, afin que nous ne soyons pas, comme dit l'apôtre Paul, condamnés avec le monde. Alors il vaut mieux se repentir et ne pas jouer pour s'en sortir. Hein. Donc, il faut simplement savoir que la discipline de Dieu n'est pas une condamnation, c'est une discipline pour me sortir de la perdition éternelle. Tant que nous vivons dans l'ère de la grâce, il n'y a pas de condamnation définitive. Hein. Pas quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit, voilà, tu vas être perdu pour toujours, pour toi, boum, 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 boum. Attention, hein, faut faire attention, là. Moi, j'ai assisté à des réunions, vous savez, j'ai entendu de ces prophéties, vous tressez les cheveux sur la tête, hein. Si tu pars pas, j'étais une fois dans un camp de jeunes, il s'est levé, si tu ne pars pas, le Seigneur a vu, tu fais de la division, si tu pars pas, demain matin, tu meurs. Boum! On était tous des jeunes chrétiens, on est restés assis sur le fauteuil, hein. Ça crée des problèmes énormes, des problèmes de blessures, des problèmes de trucs, faut faire attention. Il faut faire attention, le ministère, nous n'avons pas un ministère de condamnation, nous avons un ministère de réconciliation. Et quand Dieu nous parle sévèrement, c'est vrai, ça arrive, hein, on l'a entendu, eh bien, c'est toujours pour gagner le pécheur et jamais pour le détruire. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se repente et qu'ils vivent. Et il est important, là, il est important, vraiment important de comprendre le moment crucial de la Sainte Cène que nous avons pris ce matin. C'est pour ça que je crois que les frères ont insisté. C'est important. C'est important. Et alors donc, la maladie peut être permise par Dieu, bon, c'est sûr, mais la source, directement ou indirectement, vient toujours du malin. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. C'est pour cette raison qu'il guérissait tous les malades. Alors, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, vous l'avez, le soir, on amena auprès de Jésus tous les malades et démoniaques, il chassa les esprits par la parole, et il guérit tous les malades, c'est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il a pris sur lui nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Il faut bien savoir, le texte dit bien maladie, il dit pas souffrance, comme certaines traductions de la Bible le disent. Jésus s'est réellement chargé de nos maladies physiques. C'est-à-dire qu'en son corps, il a porté vos péchés et mes péchés, mais également en son corps, il a porté vos maladies. Lui qui s'est chargé de nos maladies et par les meurtrissures duquel, dira Pierre, vous avez été guéris. Il faut savoir que dans le texte très clair de la parole de Dieu, sans nous laisser influencer par n'importe quel courant de théologie, même les meilleurs, même avec animé des meilleurs sentiments, même pour consoler ceux qui restent malades malgré la prière, je sais que c'est dur, il y en a qui disent que c'est trop dur, moi je n'explique pas tout, mais je dis que la parole de Dieu, on ne peut pas la changer, elle dit très clairement que Jésus s'est chargé de nos maladies dans son corps, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. L'exégèse biblique, la recherche du texte original, la recherche de l'hébreu, de l'aigle, montre très clairement la chose. Ça, c'est écrit, c'est une œuvre qui est faite il y a 2000 ans, lorsque le Christ est mort. Il a porté vos péchés, mais il a également porté vos maladies. Ça, il faut que ça rentre, et il faut que ça rentre au fond de nous. Et c'est pour cette raison que je suis très affirmatif, parce que dès qu'il y a un léger doute, ça ne rentre plus, et il n'y a plus là. Et à ce moment-là, on est aveuglé, et la crainte nous prend. Apprenez, alors j'aimerais dire ceci encore, apprenez à vous voir en bonne santé dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps, d'après le regard de Dieu et sa parole, et non d'après vos raisonnements humains, ou, j'ose le dire, la faiblesse peut-être de nos églises actuelles, ou peut-être la faiblesse ou le manque d'onction que nous vivons dans ces temps difficiles. Il y a les réalités que nous vivons, et il y a les réalités éternelles de Dieu qui sont inscrites dans les cieux. La parole de Dieu est inscrite dans les cieux, même si je ne la vis pas ici-bas, elle est inscrite, elle est éternelle. C'est la parole de Dieu, c'est le Logos, c'est le Christ vivant. Donc je n'ai pas le droit de toucher à la parole par mes expériences négatives contraires. C'est à la loi et au témoignage, dit la parole de Dieu, sinon il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est un combat, comprenez là déjà, le combat de ceux qui sont malades, qui ne sont pas guéris, le combat de ceux qui pensent que finalement la guérison n'est pas pour nos jours, c'est aussi le combat pour comprendre pourquoi telle et telle personne est malade alors qu'elle n'a jamais fait de mal, pourquoi tel homme qui a tellement fait de mal n'est jamais malade, ça existe aussi, pour expliquer aussi pourquoi certains chrétiens ne sont pas engagés du tout, mais dès que vous priez pour eux, ils sont guéris instantanément, et combien des chrétiens engagés vous priez pour eux, il n'y a pas de guérison. Il y a des choses étonnantes qui se font, il ne faut pas se le cacher, elles sont réelles, mais ce n'est pas pour autant que la parole de Dieu, elle est anéantie. Et il y a là, comme je le disais, il y a des harmonies spirituelles, comme j'en ai parlé ce matin, des choses que nous n'avons pas encore, que l'Église actuellement ne vit pas encore. Moi, je ne dis pas qu'elle ne les vit pas, elle ne les vivra pas, elle les vivra, parce que la parole de Dieu nous promet que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Et nous devons croire à ces réalités bibliques pour combattre spirituellement, enfanter ces réalités de nouveau, pour que dans nos réunions, l'onction de guérison agisse, pour que la guérison divine devienne quelque chose de tout à fait commun au milieu de nous, comme ça se faisait au début de l'Église primitive. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Je dirais encore, pour vous montrer que Jésus a porté nos maladies, quand vous prenez l'exemple classique de Jésus qui dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein, bon ? Eh bien, donc, en Israël, quand ils ont été mordus, à cause de leur péché, eh bien, sur l'ordre de Dieu, Moïse leur a dit, vous n'avez qu'à regarder le serpent d'airain. Le serpent de cuivre qui était mis sur une perche, et tous les gens qui le regardaient étaient guéris. Tout le monde. Il suffisait qu'ils croient et qu'ils regardent. Pas quelques-uns. Il n'y avait pas besoin d'un réma particulier. Il y avait besoin de la foi en une parole de Dieu. Et je voudrais dire quelque chose, je crois au réma, mais je voudrais dire un danger énorme. C'est d'attendre un réma pour croire dans les Écritures. Il n'y a pas de réma pour croire dans les Écritures. Les Écritures sont vraies, sans réma ou pas avec réma, c'est de la vérité, c'est la vérité. Et la vraie vie divine doit t'amener à croire aux Écritures. Et tu as besoin d'un réma pour des choses qui ne sont pas clairement expliquées dans les Écritures, mais tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit, besoin de te nourrir de la parole de Dieu, et pas forcément d'un réma pour croire simplement ce que la Bible dit. C'est important de comprendre cela. Parce qu'on peut se laisser lier par l'attente d'un réma, alors que Dieu veut nous apprendre à croire à la parole de Dieu. Il y a deux méthodes de guérison rapidement, je dis vite pendant que j'y pense. Il y a tout simplement la foi dans la parole de Dieu, le temps devant Dieu pour progressivement, par l'aide du Saint-Esprit, arriver à croire réellement aux Écritures. Et il y a la deuxième méthode de guérison, c'est par les dons spirituels donnés à des prédicateurs ou à des hommes ou à des femmes de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu souveraine qui se manifeste au travers des charismes, au travers des dons et peut-être même au travers d'une action particulière du Saint-Esprit comme un rhéma ou autre chose. Mais c'est important, si vous voulez, c'est important de comprendre que Dieu, le but de Dieu, c'est toujours à nouveau, le but de Dieu de toujours à nouveau, c'est de nous ramener à la parole. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui en elle-même, par sa nature, est une semence de guérison. Quand Dieu dit qu'il est l'Éternel qui te guérit, quand la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus tu as été guéri, cette parole a en elle-même la puissance de guérison. Et ce qui met cette puissance en action, c'est tout simplement ta foi intérieure de le croire. Dès que tu crois, elle agit en toi. Elle agit en vous qui croyez, dit l'apôtre Paul. Et la bagarre, c'est d'arriver à croire que ce qu'elle dit est réellement vrai. Et si j'arrive à le croire au fond du cœur, alors elle agit. Donc, vous voyez, d'attendre des signes toujours peut-être destructeurs. Et nous devons être des hommes de la parole, des femmes de la parole. Nous devons être remplis de la parole. Et la vraie victoire, c'est de croire tout simplement que ce que Dieu dit, il le fait. Donc, apprenez à vous voir en bonne santé. Difficile quand vous avez un corps qui est malade, quand vous avez pris des habitudes, quand vous voyez la maladie autour de vous. Mais non. Apprenez, il y a le regard de Dieu. Comme Dieu, à la conversion, nous voit né de nouveau, nous voit avec un autre nom, alors que nous ne sommes pas... Jésus a appelé Pierre, Simon Pierre, parce qu'il voyait le futur. Bien, Dieu nous voit déjà avec le regard du futur. Il est en train de travailler comme un potier qui prend l'argile. Et bien, Dieu nous voit fini, comme un artiste qui voit déjà le tableau fini avant qu'il ait. Dieu nous appelle parce que nous ne sommes pas encore. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça la foi de Dieu. Dieu a la foi étonnante en nous. Et nous devons réaliser cette même vision des choses. Nous ne devons pas être tributaires des émotions, mais tributaires du regard de Dieu. Nous devons avoir le même regard de Dieu. Et le regard de Dieu, c'est, oui, Dieu vous voit dans son accompli à la croix du calvaire. Dieu vous voit en bonne santé. Il ne vous voit pas malade. Même si vous êtes malade, Dieu vous voit en bonne santé parce qu'il a tout fait il a tout accompli pour que vous êtes en bonne santé. Spirituellement, aux yeux de Dieu, vous êtes en bonne santé. C'est matériellement que vous êtes malade. En réalité, votre guérison existe dans le monde spirituel. Il s'agit maintenant de l'établir dans le monde matériel. Dieu agit spirituellement. C'est donc apprendre à se voir. Se voir, pas se sentir, se voir. Voir, apprendre à voir les promesses de Dieu. Apprendre à voir les paroles de Dieu. Apprendre à voir les Écritures dans leur affirmation. Et quand je vois ainsi les Écritures, quand je vois ma maladie sur le Christ, eh bien la foi, c'est la main. Alors il y a la main de mon esprit, la main de mon cœur qui prend ce que je vois. Il y a les yeux de mon esprit qui voient la promesse des Écritures, qui voient les Écritures, et il y a la main de mon esprit qui prend ce que j'ai vu. La foi, c'est saisir ce que mes yeux du cœur ont vu. C'est une action, c'est pas de la passivité. Si vous attendez que ça vienne, vous n'aurez pas grand-chose. Mais si vous prenez ce que vous savez qui est à vous, alors vous l'avez. C'est important de comprendre ça. Nous sommes souvent passifs en tant que chrétiens. Nous prions, 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 prions pour que Dieu fasse. Et c'est le grand problème. C'est pour ça que je dis quand les gens s'avancent, arrêtez de prier. Vous êtes en train de, tant que vous priez, vous montrez que vous êtes incrédule. Parce que si tu sais que tu l'as, tu ne pries plus. Alors il y en a qui ne comprenaient pas. Un jour, d'ailleurs, problème. Je demandais aux gens de ne plus prier. Ils disent, comment ça, c'est pas de Dieu, ils demandent de ne plus prier. Alors, non. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et puis qu'il boive. Donc, quand on vous impose les mains, arrêtez de prier maintenant, buvez la guérison, parce que vous l'avez reçue en Christ. C'est important, vous savez, et on a des mécanismes mentaux terriblement opposés, et qui essayent de vous empêcher. Enfin, derrière ça, il y a tout le travail du diable qui veut vous empêcher de réaliser la réalité des Écritures. Il y a comme des carcans dans nos cerveaux, il y a comme des carcans dans nos émotions, il y a comme des carcans à la fois humains, mais aussi spirituels, qui sont là. Il y a une bataille pour amener nos pensées captives à l'obéissance des Christ. C'est une bataille spirituelle incroyable. Il y a comme une transformation de notre cerveau qui doit se faire. Elle ne se fait pas tout seul. Quand Dieu nous fait naître de nouveau, c'est son œuvre à lui. Mais le changement de nos mentalités, c'est notre œuvre à nous, par la lecture de la Bible, par la prière et par l'obéissance. Je peux répéter ça parce que les gens attendent que Dieu change leur pensée, il ne changera rien du tout. Dieu te change au fond de toi en te donnant l'esprit, mais ensuite c'est à toi de sanctifier ton âme, tes pensées et ton corps et de mettre à part ton corps en fuyant l'impudicité. Nous avons notre part à faire. Le problème du christianisme, c'est qu'il est beaucoup trop passif. Alors, apprenez-vous à vous voir en bonne santé, esprit, âme et corps, d'après le regard de Dieu et de sa parole, et non d'après vos raisonnements humains, etc. Regardez, Jacques, puis-je peut-être me permettre de dire, restaurons la vision de Dieu. Je suis pas fanatique, vous savez, hein. Moi, quand des chrétiens de mon église ont des problèmes, ben, je les pousse à la guérison. Mais quand à un moment donné, je vois que ça va pas, je dis, bon, allez voir le médecin. On ne peut pas, chacun a sa foi et chacun a son niveau. Et puis je dis que l'Église est beaucoup trop faible encore pour pouvoir pousser les gens à aller jusqu'au bout au risque de leur vie. Mais nous devons lutter pour la restauration de la vision de Dieu, de la parole de Dieu. Regardez Jacques. Dans Jacques 5, il est écrit, un chrétien est-il malade? Qu'est-ce qu'il doit faire? Courir chez le meilleur spécialiste du coin? Il dit, un chrétien est-il malade? Qu'il appelle les anciens? Qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile, la prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. C'était le remède de l'Église. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez vous rendre compte combien notre étalon est descendu. On n'a plus la même puissance, on n'a plus la même réaction spontanée. Je vais même dire, il y a quelques années en arrière, eh bien, mes propres chrétiens, eh bien, avant d'appeler le médecin, ils m'appelaient toujours pour l'onction d'huile. Maintenant, j'arrive après le médecin. C'est beaucoup, pas tout le monde, heureusement, mais beaucoup. On est pris par tout ce qu'on entend, la crainte, les échecs des autres. Oui, mais on se souvient beaucoup plus des échecs que des résultats positifs. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Alors, mais ce soir, cet après-midi, je voudrais vous aider dans ce séminaire à avoir le courage de redresser. Même si tout le monde ne pense pas pareil, moi je vous dis ce que je pense, et puis vous en ferez bien sûr ce que vous voudrez. C'est tout un combat, je l'ai dit, pour un territoire à récupérer. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse, je vous donne Canaan, ok? Et puis c'est Josué qui rentre, mais vous avez remarqué que ça ne s'est pas fait facilement. Il y a eu des morts, il y a eu des combats, ils n'ont pas cru que Dieu a dit, je te donne Canaan. Ils sont rentrés avec le bouquet de violettes à la main. Voilà, nous arrivons, Dieu nous a donné Canaan. Non, l'arme au poing, il y a eu des batailles, il y a eu des morts, il y a eu toutes sortes d'erreurs, et il y a eu aussi toutes sortes d'actes de foi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne en Jésus-Christ, il faut que tu prennes ton Canaan. Et le territoire de la guérison, c'est un territoire de Canaan, c'est une fraction de Canaan de l'Église doit reprendre. C'est une bataille contre le monde invisible, c'est une bataille contre nous-mêmes, c'est une bataille contre l'atmosphère dans laquelle nous vivons, c'est une bataille contre les conceptions mêmes dans laquelle nous avons grandi humainement. Alors, je dirais aussi que la prière de la foi sauvera le malade, et je marquais ici, il n'y a pas de doute indiqué. Il n'y a pas écrit peut-être, et si ça ne marche pas, eh bien on verra. Voyez la spontanéité dans laquelle Jacques parle. Si vous regardez l'esprit de cette affirmation, c'est clair, c'est simple, il n'y a aucune force. Il n'a pas forcé, et le Seigneur le relèvera. Regardez l'aisance qu'ils avaient à cette époque-là dans la guérison divine. Je dirais quand Jésus à la croix, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, se charge de nos péchés dans ses pensées, se charge de nos péchés, de nos maladies dans son corps, des oppressions démoniaques. Mais là, sous le poids de tout cela, il en a triomphé intérieurement. C'est-à-dire que plus le mal a pesé sur lui, plus le mal a engendré en lui la vie divine et humaine à la fois. Cette vie nouvelle, humaine, cette génération nouvelle, cet Adam nouveau, qui par sa résurrection peut ensuite venir en chaque être humain qui vient à Jésus-Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pression que Jésus a connue pendant sa vie, la pression qu'il a connue dans les trois dimensions de son être pendant la croix, la pression de la mort également, a engendré chez lui un résultat qui est le résultat d'une vie nouvelle, une vie à la fois divine et humaine, la vie Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est la vie de l'homme nouveau, de la nouvelle génération, de l'homme, l'Adam, le nouvel Adam. Et c'est cette vie nouvelle qui ressuscite là, qui ressuscite de la mort et qui est maintenant à la droite du Père, parce que j'aimerais vous rappeler que Jésus-Christ est ressuscité avec son corps et qu'actuellement, à la droite du Père, nous avons Jésus-Christ homme avec un corps glorifié. Dieu accorde une importance énorme à votre corps physique. Nous attendons, nous ne sommes pas comme les gens de la réincarnation ou ceux qui pensent qu'il n'y a que le salut de l'esprit. Nous attendons, nous chrétiens, nous savons qu'il y aura la résurrection des corps, parce que dans le ciel, le Fils de Dieu a un corps. Et Dieu a voulu qu'à sa droite, son Fils ait un corps humain. Comprendre la valeur du corps humain pour Dieu. C'est pour ça qu'il veut que la maladie ne touche pas. faut le comprendre, hein. Donc, Jésus, par sa résurrection, a une vie de vainqueur, une vie de guérison. Il a vaincu la maladie, il a vaincu les démons, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché. C'est sa vie de victoire en lui. Et quand il vient dans ta vie, à toi, lorsque tu donnes ta vie, eh bien, sa vie de victoire, eh bien, il vient en toi et il te donne de triompher du péché, il te donne de triompher de la maladie, il te donne de triompher de la puissance mauvaise. Christ en nous. Non seulement nous avons tout légalement à la croix, mais nous avons tout par l'expérience de sa vie en nous qui se développe jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et c'est cette vie en nous qui va nous amener à la sanctification, c'est-à-dire la mise à part, esprit, âme et corps. La mise à part pour Dieu, c'est au service de Dieu. Si mon corps infirme, mettez en évidence un homme qui est couché paraplégique, hein, dans son lit, et vous lui dites, tu vas servir Dieu, et mettez un homme à côté qui est costaud, qui a une pleine santé de son corps, et si les deux sont spirituels, et bien c'est celui qui est en pleine santé qui aidera mieux l'œuvre de Dieu que l'autre, parce que l'autre est un fardeau. Et comment est-ce qu'on peut penser que la maladie est voulue de Dieu pour qu'on soit plus spirituel? Dans ma petite expérience de pasteur, j'ai souvent vu que ceux qui étaient le plus malades étaient les plus grincheux, les plus difficiles à vivre. Il faut être réaliste, la maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Je pourrais encore dire, au désert, dans la tentation du désert, Jésus triomphe du diable pour lui. À la croix, il triomphe du diable pour nous. Et sa vie de résurrection en nous, nous libère et nous guérit maintenant. Et cette vie de résurrection que tu as reçue lorsque tu as donné Christ, qui est nourrie, et j'allais dire intensifiée, et qui est comme transmutée par le baptême du Saint-Esprit dans un déferlement de puissance, eh bien cette vie circule jusqu'aux extrémités de ton corps, comme la vie ou la sève passe dans la plante, depuis sa racine jusqu'au bout. Dans tout ton être, il faut que tu aies conscience que le Saint-Esprit est jusqu'au bout de tes ongles. Parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Et si tu as Christ en toi, la vie du Christ en toi, elle est dans ton sang, et parcours où circule le sang, il y a la vie. Il y a la vie de résurrection, il y a la vie du Saint-Esprit. Et si tu sais que cette vie est plus forte que celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde, cette vie peut résister aux microbes, cette vie peut résister aux bacilles, cette vie peut résister à la contagion. Vous avez beaucoup de promesses dans la Bible qui vous dit que vous n'avez pas à craindre ce que les autres craignent. Hein, nous pouvons résister à la contagion. Malheureusement, dès que tu as peur, eh bien, la brèche est faite et ça rentre. Et l'attaque du diable se vient par la crainte, par les raisonnements, par tout ce que nous entendons, et pour ouvrir une brèche, et à ce moment-là, le mal peut rentrer. Je dirais encore le corps, la Bible est très claire, le corps est pour le Seigneur, à la fois pour la pureté, la consécration, que la maladie veut peut-être empêcher, mais le Seigneur est aussi pour le corps, parce qu'il a pris un corps. Pour le libérer de la malédiction et faire asseoir sur le trône, c'est l'union du spirituel et du naturel, Jésus-Christ, homme. Je l'ai dit tout à l'heure. Et la Sainte Cène, je les rappelle rapidement, c'est discerner le corps du Christ, discerner la puissance de guérison qui est dans le corps de ressuscité, car notre corps est un membre du corps de Christ. Parole de Dieu est claire, notre corps, votre corps physique, peut-être malade, est un membre du corps de Christ. Pas du corps de Christ mort à la croix, mais du corps de Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la maladie et qui est ressuscité. Vous êtes unis au Christ dans les cieux. Un corps glorifié, excusez-moi du même, qui est plein de santé. Et la Bible, ma Bible à moi, dit que votre corps est un membre de ce corps glorifié. Donc, si tu crois à cela, hein, la vie divine du corps de résurrection circulera dans ton corps mortel. Je peux répéter ça? La vie de résurrection divine qui circule dans le corps physique de Jésus circulera dans ton corps mortel. Car la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il donnera la vie, non pas à ton corps mort un jour, mais il donnera la vie à ton corps sujet à la mort, à ton corps mortel. C'est ça que ça veut dire. Puissance d'une vie impérissable en nous. Et avoir la santé divine, c'est laisser cette vie constamment nous entretenir, nous régénérer pour que nous ne tombions pas malades. Et s'il y a des attaques, eh bien on se défend jusqu'à ce qu'elles soient rejetées. Mais, si vous voulez, celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, la Sainte Cène nous met en contact avec ça. Et notre corps, la parole de Dieu est claire là aussi, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps comme dans votre esprit. Alors, il y a trois causes de blocage. Souvent, Dieu et sa notion de justice, on peut tomber malade à cause de notre faute. Je l'ai dit tout à l'heure. Le diable, l'adversaire qui veut coller des maladies comme il l'a fait à Job, nous-mêmes, par notre incrédulité face aux contagions, face aux luttes, aux combats autour de nous, peut-être aussi pour d'autres raisons, mais j'aimerais dire une vérité. Quelle que soit votre situation ou la mienne, même si je suis incrédule, même si je n'y arrive pas, la clé, c'est persévérer à demander au Seigneur qu'il m'aide. Par la persévérance, nous triomphons de nos doutes. Par la persévérance, nous triomphons de nos inquiétudes. Par la persévérance, nous héritons des promesses de Dieu. Il faut parfois du temps, énormément de temps. Alors, pourquoi est-ce que je crois que la guérison est pour nos jours et non pas pour l'éternité? Parce que Dieu a promis que nous pourrions mourir rassasiés de jours ou avertis par le Seigneur de notre délogement. Je prolongerai tes jours ou je te ferai aller dans des jours avancés. La parole de Dieu parle de rassasier des jours. Nous sommes habitués à partir avec une maladie, mais Dieu peut tout simplement, moi je connais des gens qui sont morts comme ça, l'esprit est parti, assis dans leur fauteuil, ils sont partis en paix. Qu'est-ce que vous préférez, partir en paix ou préférez hurler parce que la cortisone n'arrive plus à guérir votre cancer? Il faut se préparer à ces combats-là. Si tu attends le dernier moment pour te préparer à la guérison divine, le jour où le cancer frappera, ben tu seras vaincu. Mais si tu te prépares maintenant, non, moi je ne veux pas, je refuse la maladie. J'avais une sœur âgée de l'église, sa mère, sa grand-mère, avaient toujours, tous avaient des mauvaises circulations de sang dans le cerveau. Et ils avaient tous fini par perdre la tête. Et elle, chrétienne, a dit, moi je ne veux pas, c'est héréditaire, c'est dans ma famille. Elle était inquiète, dit, Pierre, qu'est-ce que je dois faire? Pourvu que ça ne m'arrive pas. Je dis, refusez ça. Jésus a brisé l'hérédité. Elle a bagarré. Des fois, elle a eu des quelques alertes. Hop, non, je refuse. Elle a maintenant, je crois, 80 ans. C'est une de nos meilleures évangélistes. Faut refuser. Si tu acceptes, t'es cuit. C'est comme ça, les médecins, nous remercions Dieu parce que s'il n'y avait pas les médecins, ce serait lamentable, C'est les méthodes naturelles, c'est l'aide naturelle, c'est l'aide humaine, ils font ce qu'ils peuvent et je trouve qu'ils font vraiment beaucoup, Donc, tu n'es pas compte, le médecin, c'est la méthode naturelle, mais la guérison divine dépasse les possibilités humaines et rend la présence de Dieu réelle et nous pousse à la joie du service. Quand vous êtes guéri par un médicament, vous êtes content d'être guéri. Mais quand vous êtes guéri par la puissance de Dieu qui vous touche, vous galopez comme un lièvre pour dire aux autres ce que j'ai déjà fait pour vous. Ça n'a pas du tout les mêmes résonances. Parce que quand Dieu vous touche, paf, vous foncez. D'où l'avantage de la guérison divine. Recherchez le Seigneur, car il est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, psaume 103, et qui guérit toutes tes maladies. Alors je vous pose la question honnêtement. Oubliez pendant quelques instants toutes les expériences des membres de votre famille qui sont malades, des chrétiens pour lesquels on a prié qui sont morts quand même. Oubliez tout ça, ça c'est vos expériences et ouvrons la Bible tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on traite Dieu de menteur? Dis Seigneur, tu te fiches du monde. C'est pas normal que tu puisses écrire un truc comme ça. Tu es l'Éternel qui guérit toutes nos maladies alors qu'il y a tellement de gens qui meurent. Faut aller jusqu'au bout de nos raisonnements là. Faut aller jusqu'au bout, faut être honnête. Des gens qui disent, moi je crois à toute la parole de Dieu, mais quand je les vois vivre, je vois que tel verset, il l'arrache, telle page de la Bible, il l'arrache. C'est plus de nos jours, c'est plus ceci. Ils font ce qu'ils font. Ils font leur bricolage, évangélique. Mais c'est vrai. Et on fait pareil pour la guérison, on fait pareil pour d'autres choses. Des trucs qui ne nous conviennent pas, on dit que c'est plus pour maintenant. Non, vas-y. Mais j'aimerais bien que tu me le prouves. Alors on cherche des interprétations à droite, à gauche, on va courir en Amérique pour les trouver, des arguments. Mais je peux vous dire, en Amérique, c'est souvent lamentable. Moi, je ne me laisserai jamais infuser en père des Américains. C'est vraiment pas un exemple. Mais ce qui compte, c'est ce que dit la Bible. Que dit la Bible? Que dit Dieu? Que dit Dieu? Dieu dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes. Il n'y en a pas une cet après-midi que Dieu ne pardonne pas. Et Dieu dit qu'il est celui qui guérit toutes tes maladies. Ou c'est vrai, et je vais faire tout mon possible pour le vivre, ou c'est pas vrai, alors j'arrache la Bible, j'arrête de lire la Bible, ça ne vaut pas la peine. Je me laisse guider par l'esprit et je me fais piéger par le diable qui est capable de contrefaire bien des choses. Je deviens un chrétien mystique, charismatique dans le mauvais sens du terme, avec des naufrages périodiques comme il y en a eu en Amérique au moment où il y a eu le courant charismatique, comme il y en a périodiquement, avec des gens qui tombent dans l'adultère, avec des gens qui tombent dans les fausses interprétations, avec un mysticisme malsain, avec des prophéties dénaturées, avec des gens qui restent chaos sur le terrain. Ça, vous pouvez y aller. Mais ma Bible, moi, me dit, psaume 119, je médite ta parole jour et nuit, afin de la serrer dans mon cœur. C'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui a la guérison. C'est pas ma foi qui produit la guérison. C'est ma foi qui permet à la parole de Dieu d'agir en moi. Et quand Dieu dit qu'il est l'Éternel qui guérit, cette vie de Dieu, l'Éternel qui guérit, agit en moi et en vous, maintenant, pendant que vous y êtes, si vous croyez cela, l'esprit de guérison de la nature de Dieu qui est en vous est en train d'agir dans la guérison. Une chose peut-être encore à dire, c'est qu'il y a une différence entre guérison et miracle. Le miracle, c'est la guérison instantanée, tandis que la guérison divine, c'est la guérison qui s'installe dans un corps, mais dont le processus s'échelonne parfois dans des semaines, parfois des mois ou en quelques jours. Ça dépend. Tout ce qui compte, c'est est-ce que tu crois que c'est ça ou est-ce que tu espères seulement que c'est ça. C'est la bataille, hein, vous savez, on en a tous. Hein. Alors, je dirais encore ceci. Souvent, et je ne dis pas cela pour vous traumatiser, pour vous culpabiliser, j'affronte le problème parce qu'il faut l'affronter, parce que sinon la guérison, vous n'aurez pas beaucoup de guérison dans votre vie ni dans la mienne. Mais souvent, beaucoup de gens manquent de hardiesse pour eux-mêmes, bien qu'ils croient à ces vérités. J'ai souligné pour eux-mêmes parce que c'est fou ce qu'on donne les conseils aux autres. Fou. Hein, alors, ils manquent de hardiesse pour eux-mêmes. Et ça se comprend, parce que moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Hein. Quand vous êtes touché vous-même, ben, vous commencez à réfléchir, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous vous rappelez, qui c'est qui a dit ça un jour? Serpent à Ève? Mais tu es sûr que tu ne te trompes pas? Est-ce que le verset que Dieu a dit est vraiment ce verset-là? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une fausse interprétation là? Mais est-ce que tu crois que c'est encore valable pour aujourd'hui, ce truc-là? Mais c'était autant. Vous savez, moi, il y a des trucs dans la délivrance. Hein. Moi, je suis parfois étonné de voir la légèreté avec laquelle on pratique des délivrances. Parce que je peux vous dire, il y a des versets bibliques que j'ai appris dans la confrontation. Parce qu'il peut y avoir des délivrances là au milieu de nous, mais ce qu'il va dire, c'est ce que vous devenez 15 jours après. Vous qui avez pratiqué la délivrance. Là, j'aimerais voir certains dans leur vie privée après. Et on en découvre des choses là. Hey, voilà. Vous savez, on est léger, léger avec la parole. Moi, je vous dis, la parole, c'est la puissance de Dieu. Plus elle est en toi, plus elle te donne de l'autorité. C'est important. Il y a des choses, vous savez, c'est pas de l'émotion là. Le combat spirituel, c'est de la bagarre. Il y va de la vie et de la mort. Pas de la vie ou de la mort. Faut comprendre ça. Vous savez, j'insiste un petit peu parce que je crois que Dieu est en train de lever des gens qui en veulent, et ça, c'est vraiment le travail de l'esprit. Mais je voudrais que cette levée se fasse avec des racines authentiques, profondes, pour que votre immeuble spirituel puisse aller au pire que les gratte-ciels des États-Unis. Plus vos fondations profondes puissent vous irez loin. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'oser prendre la parole de Dieu comme elle est. Jésus, quand il s'est mesuré au diable, il n'a pas dit « je sens », il n'a pas dit « j'ai un réma », il n'a pas dit « j'ai ceci hein. ». Il a dit « il est écrit, un point, c'est tout ». Quoi. Il est écrit, c'est écrit. Si c'est écrit, il faut le faire. Si c'est pas écrit, il faut pas le faire. Mais si c'est écrit, fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Voilà, toujours, est-ce que Dieu a réellement dit? On le recommande. Vous le retrouvez dans beaucoup de domaines dans le monde chrétien. Non, parce qu'attention, un tel ne le fait pas, un tel ne le fait pas, un autre ne le fait pas, papa. On regarde toujours aux autres. Mais qu'est-ce que dit mon Dieu? Est-ce qu'il m'a dit de me regarder à tonton, à la tata? Il m'a dit de regarder à lui. La Bible dit, regardez à Jésus, le chef et le consommateur de quoi? De votre foi. C'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, que 10 000 fassent comme ça et 10 000 autres. J'ai appris à dépendre de Dieu. C'est ça qui compte, mes amis. Et dépendre de Dieu, c'est-à-dire dépendre de la parole. Parce que dépendre de Dieu sans la parole, c'est devenir un mystique. Mais dépendre de la parole avec l'aide de l'Esprit Saint, ça, c'est être équilibré. Et nous devons, au niveau de la guérison, je me bagarre un peu, excusez-moi, mais j'espère que le Saint-Esprit va vous aider à vous battre dans les jours qui viennent. Alors, dans Marc 9, vous connaissez ce père de famille qui avait amené à ses disciples, aux disciples de Jésus, cet enfant épileptique, je ne sais pas si c'était épileptique, enfin, il allait tomber dans l'eau, un démon était là, lié par un démon. Et cet homme dit à Jésus qu'il revient. Jésus qui revient, on oublie ça, Jésus qui revient de la transfiguration. Donc Jésus qui est saturé de l'onction. Jésus est littéralement saturé de l'onction, sa chair est saturée de l'onction, son corps est saturé de l'onction. C'est un être qui n'a pas seulement l'Esprit de Dieu, il est saturé. Ça a été tellement saturé que ses vêtements étaient devenus d'une blancheur de lin, plus blanc que le lin. Saturé. Et Jésus descend, personne ne sait rien de sa transfiguration, mais c'est là sur lui, ça émane de lui. Rappelez-vous, cette femme qui l'a touché atteint d'une perte de sang, et bien ça émanait, a été guérie instantanément. Il y a des émanations qui sortent de nous. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, ou elles sont neuves, il n'y a rien du tout. Bon, cet homme arrive et dit à Jésus, mais je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Alors Jésus l'explose, parce que des fois, vous savez, je crois que Jésus des fois aussi, hein, il avait des réactions. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous avez jamais été étonné de la dureté parfois avec laquelle Jésus parlait? L'autre jour, un pasteur me disait qu'il avait été étonné de voir que beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient un ministère étonnant de guérison divine étaient parfois durs avec les personnes qui venaient à lui. Carré! M'a dit, j'ai vite fil de tant d'autres qui avaient des guérisons étonnantes. Carré! Il les enguirlandait presque de ne pas croire. Vous savez, c'était. Parce qu'ils étaient tellement convaincus de leur message. C'était en eux, ils ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse pas comprendre. Écoutez, cette femme syrophénicienne, vous connaissez l'histoire? Quand elle dit, ma fille, Jésus dit, oh, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous savez, pour un fils de Dieu, il y a mieux, apparemment. Puis elle dit, viens supplier, Elle dit, mais les chiens, rappelez-vous, il n'est pas bon de jeter le pain aux chiens. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit, Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants pour le donner aux chiens. Mais vous rendez compte? Moi, si je vous dis un truc comme ça, vous allez me coller une baffe en pleine figure. Mais est-ce que vous rendez compte la blessure qu'il lui a fait? Vous rendez compte le coup de poignard de cette femme, dans le cœur de cette femme? Vous savez, je voudrais vous enlever l'image d'un Jésus aseptisé, guimauvé, à moitié homo et tout ce que vous voulez. Pas vrai, c'est pas vrai. Mais si, on le présente comme ça. Prenez les tableaux, prenez les photos. On se demande, mais qui on a affaire? Mais c'est vrai, ça, pas du tout ça. Pas du tout, mais alors pas du tout. Mes amis, je voudrais tellement... Excusez-moi si quelqu'un a un problème sur ce terrain-là. Je n'ai pas voulu le blesser, mais je dis, il n'y a pas le côté efféminé dans la personne. Je dis, il était homme, vraiment homme. Hein, je voudrais vraiment le rappeler là. Alors, cet homme-là, il l'amène aux disciples. Ils n'ont rien pu faire. Alors Jésus éclate. Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse, ils la prennent en pleine gencive. Vous savez, nous, on aurait tout de suite à lui dire, le pasteur, il n'est pas aimable. Ah, là, si c'est ça l'amour, si c'est ça l'amour, je change d'église. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterez-je ça? Vous voyez le poids, vous voyez la nature intérieure de Jésus pur, et parce qu'il est pur, il connaît Dieu, et parce qu'il connaît Dieu, il croit. Il croit parce qu'il sait, il a le regard de l'invisible, il sait ce qui est juste, il sait ce qui est vrai. Et à ce moment-là, sa nature intérieure réagit à la dénature de tous ses disciples. Jusqu'à quand dois-je vous supporter? C'était vraiment un poids pour lui. Il dit, amenez-le-moi. Et quand le démoniaque le voit, l'enfant l'amène cet enfant, il l'a même pas touché, c'est simplement le regard, c'est simplement l'onction. Ça saute. Mais je vous ferai remarquer que quand les disciples lui disent après, mais pourquoi on n'a pas? Ils ont été honnêtes quand même. Ils n'ont pas cherché une théologie pour dire la guérison n'est plus de notre temps, la délivrance, ça, c'est pas chrétien. Hein? Donc, non, ils ont été honnêtes. Ils ont dit, on n'a pas pu faire. Pourquoi? Ben, ils disent, à cause de votre incrédulité. C'est simple, c'est clair, c'est net. Je vous le dis, si nos malades ne sont pas guéris, c'est à cause de notre incrédulité. Et moi, le premier, je lève la main. Moi, pasteur, je suis un incrédule dans bien des cas. À cause de votre incrédulité. Mais Jésus va dire quelque chose. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, parfois, est nécessaire pour vaincre l'incrédulité maladive qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Et comme Jésus était saturé de l'onction, il a commandé, c'était fini. Confrontation de royaume. Pas seulement confrontation d'idées évangéliques, de proclamation évangélique, confrontation de puissance. Parce qu'il en était saturé. Et ça, c'est important. Alors, Jésus dit... Alors cet homme dit à Jésus, mais si tu peux faire quelque chose? Alors Jésus dit, si tu peux? Voyez encore, comment tu me dis si tu peux? Pourquoi tu viens alors? Tu viens parce que tu espères ou puis tu viens parce que je pense que je vais le faire? Voyez encore, il y avait le doute. Et cet homme a été honnête. Et c'est ce que je vous conseille toujours d'être avec Dieu. Et il dit, je crois. Il croit, mais en même temps il réalise que son bateau coule. Ah, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il était franc, cet homme-là. Et c'est ce qu'il devait être, ce que je dois être. Dire, Seigneur, je crois, je veux croire, mais tu vois, c'est tellement fort. Aide-moi à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus n'a jamais repoussé ce genre de prière. Mais il ne faut pas fuir, il ne faut pas dire qu'on a la foi quand on ne l'a pas. C'est se tromper soi-même, c'est tromper Dieu, mais on ne trompe pas le diable. Il faut le comprendre, c'est de la confrontation. Alors, je dirais ceci, exposez à Dieu votre incrédulité et comptez sur lui pour en être libéré. La foi, écoutez bien cela, la foi n'est pas une monnaie qui doivent acheter au Seigneur votre guérison. Ne perdez pas votre temps à pleurer sur votre incrédulité, mais regardez à Jésus et dites-lui que vous voulez croire à sa parole. Et comptez sur lui, car la foi est aussi un don de grâce venant de notre communion avec lui. Prenez du temps avec lui, avec la parole. Enfin, n'oubliez pas ensuite de témoigner de votre foi devant le monde invisible et visible. Parce que ce que tu proclames, tu le deviens. Parce que ce que tu proclames, tu le gardes. Combien de personnes sont guéries 3 jours après, ça recommence et disent, j'ai pas été guéri. Alors là, vous pouvez être sûr qu'ils l'ont le mal. Parce que là, il est revenu, puis par deux fois plus difficilement. Parce que moi, j'ai remarqué dans bien des cas de guérison, ou même de délivrance, la personne est guérie, elle se sent bien. Elle vous le dit elle-même. Je me sens, oh, c'est parti. Trois jours après, elle dit, c'est revenu, oh, Dieu ne m'a pas guéri. Non, c'était parti, mais seulement ça a voulu revenir. Et comme elle a senti, elle a cru que ce n'était pas parti, alors c'est rentré. C'est ça le combat de foi. Doute de tes doutes. Car tes doutes sont redoutables. Oh, j'ai fait vite un petit peu pour... je voudrais maintenant aller devenir pratique. Parce que tout à l'heure, on va le mettre en action, c'est normal. Hein? Devenir pratique maintenant. Comment voyons ensemble les différentes méthodes d'action? Mais j'ai voulu d'abord construire votre foi rapidement sur les Écritures, c'est ça. Ah, j'ai oublié de dire une seule chose. Votre foi, attention, votre méthode, votre moyen de guérison, ce n'est pas l'Esprit de Dieu immédiatement qui agit, parce que l'Esprit de Dieu vous parle, tu es guéri, et c'est l'Esprit de Dieu qui agit, ou ce n'est pas la révélation que Dieu vous donne, c'est ce qui guérit, c'est l'action du Saint-Esprit au travers de la parole, parce que la parole est une partie du Christ, et c'est par là, il envoie sa parole et il guérit. C'est pourquoi les paroles d'autorité qui sortent, c'est pourquoi les paroles de connaissance qui sortent, c'est pourquoi les versets prononcés au bon moment, ce sont des paroles qui sont véhiculatrices de la guérison. Dieu, la main de Dieu, c'est sa parole. Et le Saint-Esprit t'amènera toujours à la parole, parce que c'est lui qui a rédigé la parole. Le Saint-Esprit agira toujours au travers de la parole, pas en dehors de la parole. Et le Saint-Esprit agira en toi pour te rendre capable de croire à la parole, pour te donner la capacité de dire la parole, pour te avoir la capacité d'obéir à la parole, de sauter dans l'eau en comptant sur la parole. Vous savez, quand Israël a franchi le Jourdain avec Josué pour pénétrer en Canaan, il y avait le Jourdain, la crue du Jourdain, et qu'est-ce que Dieu a dit? Ben, vous allez prendre les sacrificateurs, ils vont prendre l'arche sur les épaules et ils vont précéder le peuple et ils vont entrer dans l'eau. Là, vous avez un merveilleux exemple de la foi. Eh bien, il nous a dit que quand les pieds des sacrificateurs sont rentrés, à ce moment-là, l'eau s'est arrêtée. L'eau s'est pas arrêtée avant, ils auraient pu prier avant, l'eau ne se serait pas arrêtée. Et il a fallu qu'ils rentrent dans l'eau. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu rentres dans l'eau de la parole. Il n'y a pas d'autre moyen. La foi dans les Écritures. Tu n'as pas besoin, quelqu'un qui arrive à croire avec l'aide du Saint-Esprit et la communion avec Dieu, qui arrive à croire à la réalité des Écritures, n'a pas besoin d'un don de guérison, n'a pas besoin d'un ministère de puissance. Sa foi lui est imputée à justice et Dieu agit. Parce que Dieu honore toujours la foi en sa parole. La foi dans la parole, c'est la méthode de guérison accessible à tout le monde. On n'a peut-être pas les super évangélistes avec les super dons. Hein, quelqu'un un jour a dit, oh, moi je connais quelqu'un qui a les 32 dons. Il pensait autant, il s'était trompé. Mais non, il y a un moyen de guérison, c'est la foi. Elle est accessible à nous tous. Maintenant, il y a les grâces de Dieu, les dons de guérison, les dons de miracles, les ministères ou les personnes qui reçoivent ces dons. C'est des grâces que Dieu donne au corps de Christ pour le bien de nous tous, pour notre faiblesse. Mais si tu cultives ta foi, tu peux arriver à la délivrance. Il y a l'autodélivrance. Il y a l'auto-guérison à cause de ta foi dans les Écritures, parce que ce sont les Écritures qui te guérissent. Alors, méthode, donc, la foi dans les Écritures, je viens de le dire, la foi dans les Écritures rendue vivant par le Saint-Esprit, par la prière, la méditation, la lecture, pour arriver à la foi du cœur qui seul permet la prière de la foi qui guérira le malade. Bon, il y a également, je rappelle parfois, nous devons être amenés à confesser l'héritage occulte, familial, hein, et être libéré par l'autorité du Saint-Esprit d'héritage ou culte que nous avons, ça existe. Et parfois des démons qui sont sur vous, n'avez jamais fait le mal, mais vous avez hérité ça de vos parents ou arrière-parents. Il y a des esprits qui suivent, comme j'ai dit, on peut suivre la généalogie des esprits dans la généalogie de la famille. Je vais donner quelques exemples. On voit des familles qui ont des traces occultes depuis plusieurs générations. Quand il y a dans la même famille, quand par exemple les gens disent, mais quand je vois des symptômes occultes, je dis, mais vous n'avez jamais allé voir des guérisseurs dont j'avais fait de la magie, horoscope, tout ça, rapidement? Non. Bon, je dis, vos parents, non, je crois pas, je sais pas, non, non, non. Arrière-parents, non, je sais pas. Bon, alors je continue. Est-ce que quelqu'un est né avec une difformité de naissance? Ah, il dit, oui, j'ai un frère, il a un pied tordu. Premier signe d'un héritage occulte. Deuxième chose, est-ce que vous avez quelqu'un qui a eu tentative de suicide ou de suicide dans votre famille? Ah oui, j'ai... Et alors, on arrive à remonter. Et on voit qu'il y a des étapes dans la généalogie de la famille où il y a eu intervention occulte parce qu'un tonton, une tata, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, à un moment donné, est soit allé voir un rebouteux, soit fait de la magie, soit fait toutes sortes de choses, etc. Il y a tout un héritage parfois que nous avons. Il y a un héritage familial, il y a parfois un héritage local. Vous savez, Orvin, ils sont gentils, Orvin, mais je peux vous dire que... Hein, je ne dis pas plus. Mais il y a des régions, il y a des secteurs, il y a des villes, il y a des villages. La parole de Dieu parle d'autorité, principauté, domination, esprit méchant dans les airs. On pourrait en discuter. Il y a des continents, il y a des pays. C'est bon. Et ça, ça influence, ça, ça agit, ça, ça peut matraquer, ça, ça peut communiquer des maladies, etc. Mais l'Église est la seule puissance qui peut se mesurer à cette puissance-là. Alors, arrivons au fait maintenant. Nous devons apprendre à être sensibles à toutes les indications de notre esprit dans lequel habite le Saint-Esprit, développer ses aptitudes, car nous agissons souvent, ou nous voulons agir par notre intelligence sur ce qui est du domaine de l'esprit. En un mot, nous voulons régler avec notre âme ou notre intellect ce que nous ne pouvons régler que sur le terrain de l'esprit, du spirituel. Nous nous mesurons souvent contre les démons avec notre intelligence, c'est impossible. C'est un esprit spirituel, ce n'est que votre esprit qui peut se mesurer à lui. Nous voulons servir Dieu qui est esprit avec notre intelligence, alors que c'est d'abord par notre esprit, car Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. L'esprit d'abord, l'intelligence éclairée suit après. Et nous devons comprendre que nous devons être sensibles. Je disais l'autre matin, nous avons 5 sens physiques, mais il faut savoir également que vous avez des sens spirituels correspondants. Il y a l'ouïe de l'esprit, il y a la vue de l'esprit. Par exemple, Dieu qui dit, dans Paul qui dit, je préfère que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Votre cœur a des yeux, votre être intérieur, votre esprit a des yeux, votre esprit a une oreille, votre esprit a le sens du goûter, votre esprit a le sens de l'odorat, votre esprit a le sens du toucher. C'est des choses qui existent, ça. Mais nous, on n'a jamais connu ça, on n'a jamais été formé à ça. Jamais été formé à ça. Alors les langages de l'esprit, c'est la voix intérieure, le témoignage intérieur, c'est l'intuition, c'est la conscience, il y a toutes sortes de façons, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est ces choses-là qu'il faut développer au détriment de nos sens physiques. Et si tes sens physiques te disent tu es malade, tes sens spirituels doivent te donner, tes yeux spirituels doivent te donner, te voir, ta guérison accomplie à la croix du calvaire. C'est une bataille entre le charnel et le spirituel. Tout est là, un problème de bagarre. Et chez nous, c'est le charnel qui triomphe. À cause de notre éducation, à cause de ce que nous savons. Alors, je dirais aussi, actuellement, nous assistons à un développement, de plus en plus, à une remise à jour de ces capacités spirituelles. Vous savez qu'on peut être bibliolâtre, on peut être fort dans la lettre de la Bible, en dehors de l'esprit, et ça c'est tragique, parce que la lettre vous a jamais... L'apôtre Paul va plus loin que moi, il dit que la lettre tue. Ça fait des problèmes, mais la lettre dans l'esprit, ça c'est bon. Ou l'esprit au travers de la lettre, ça c'est bon. Et bien là... Eh bien, nous pouvons avoir des raisonnements tout littérés, littérales, bibliques, mais simplement littéral, ça ne donne pas la vie. Il faut l'esprit en même temps. Donc, l'esprit va agir au travers des sens spirituels que nous devons développer. Tu dois développer le regard de la voix, tu dois apprendre à voir l'invisible, tu dois apprendre à toucher l'invisible, tu dois apprendre à sentir l'invisible. On va y arriver tout à l'heure. Je voudrais dire, ce développement de cette capacité spirituelle que Dieu est en train de remettre en vigueur dans les églises et dans les chrétiens, eh bien, qui rencontrent parfois l'opposition des aînés parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Chez nous, en France, on dit Douglas Scott, il a fait comme ça, donc il faudra faire ad aeternam, comme M. Douglas Scott a fait. Et M. Douglas Scott était un homme de Dieu, je ne le nie absolument pas, mais c'était son ministère, à son temps, à son époque, dans un milieu donné qui ne correspond pratiquement plus au nôtre maintenant. Parce que la France d'avant et la France maintenant, dans le milieu religieux, c'est vraiment deux mondes différents. Avant, il n'y avait pas d'église de Pentecôte, maintenant, ils se font la bagarre. Ça change quand même. Alors, je dirais donc ce développement de l'Esprit de Dieu, ce développement de l'Esprit de Dieu et ce développement des capacités spirituelles, du combat spirituel dont nous enseignons, dont nous sommes enseignés les uns les autres, et il faut, ça correspond à une action de l'Esprit cet enseignement, sont en train de faire que le Saint-Esprit agit de façon déroutante pour bien des gens. Et là, je voudrais, première chose, vous rassurer. Peut-être s'il y a parmi nous des gens qui ont besoin d'être rassurés en disant, mais comment? On va y arriver, je vais prendre point par point. Comment? Mais ça, on l'a fait un jour. Quelqu'un dit, mais ils font comme des guérisseurs. Je me rappelle, j'étais à Lubumbashi, au sud-est du Zaïre, à une convention, et au moment de l'appel, des gens s'avancent, et il y a un gosse de 12 ans, à peu près, je crois, Jésus, après, qui s'est avancé. Au moment de l'appel, au moment où je lui impose les mains, voilà le gosse qui tombe évanoui par terre. Mais pas 2 minutes, 10 minutes. Vous savez, si longtemps, je n'avais jamais vu pour un enfant. Oh ! J'ai dit, tu vois, ils commençaient les gens à me regarder en me disant, ça y est, j'étais le sorcier du coin. Hein. Et puis au bout de 10 minutes, ouf, l'enfant s'est levé, il a regagné le siège de ses parents, avec ses parents. Et une semaine après, l'oncle que j'ai rencontré dans la capitale, au Zaïre, à Kinshasa, a donné le témoignage. Cet enfant, depuis des semaines, était complètement détraqué dans les nerfs, ne dormait plus, des insomnies, des convulsions. Et ce jour-là, quand j'avais imposé les mains, il est tombé, il a complètement perdu connaissance, et là, pendant 10 minutes, il a fait une cure de sommeil accélérée. Quand il s'est relevé, il était totalement guéri. Il est rentré, restauré, totalement fini. Il se passe des choses étonnantes. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu a-t-il fallu nous mettre là en panique tous là? Il aurait pu éviter de nous faire peur. Mais il nous a fait la trouille, excusez-moi, Dieu nous a fait peur. À Bangui, il y a 2 ans, j'ai fait un appel, c'était en plein air, quoi, de 3000 personnes là sur la place, et j'ai fait un appel et j'ai dit que tous les enfants jusqu'à 12 ans viennent, Dieu va les toucher. Bah, vous savez, en Afrique, vous n'avez pas besoin de pousser, ça court. Devant moi, plein de gens. Et il y avait des mamans qui tenaient les enfants avec les Africains, vous savez, eux, ils n'ont pas de complexe comme nous. Les mamans qui avaient leurs enfants, hop, j'ai un enfant, j'y vais aussi. Et me voilà avec tous les pleins de gamins, et voilà les mamans avec les bébés dans les bras. Et c'est produit une chose que j'avais vraiment pas prévue. Au moment où je tends les mains, et je vais vers les enfants pour leur imposer les mains, au moment où je tends les mains, voilà comme une gerbe, 60 gosses à terre, 40 à 60 gosses à terre. Alors j'avance, je vois ça, les gens regardaient ça, j'avance, bon, à terre, comme des pipes jetées à terre. Et quand je m'approche des mamans, voilà que les mamans avec les bébés tombent à terre. Il y a des moments comme ça, je n'avais même pas prévu. Je savais que Dieu allait agir, mais je ne savais pas comment. Alors, là, vous pouvez dire, les chrétiens disent, ça, c'est occulte. Vous savez qu'en Afrique du Sud, il y avait les ministères de Erlo Stegel et puis de Reinhard Bunker. Erlo Stegel, c'est un évangélique classique, Reinhard Bunker, c'est un pentecôtiste ou charismatique. Alors les uns disent, ouais, Reinhard Bunker fait tomber les gens, ça c'est occulte, c'est les guérisseurs. Et il y en a qui vous disent, oui, il faut que les gens tombent à terre devant. Quand ils se prosternent, ça vient de Dieu. Quand ils tombent en arrière, c'est pas de Dieu. Non, mais c'est comme ça, vous rigolez, mais c'est comme ça. Il y a des livres qui sont écrits. Et on cherche, mais c'est sûr que ça fait peur. Ah, c'est sûr. Alors je voudrais rassurer. Parce qu'on dit que le diable se déguise en ange de lumière, et c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas se laisser séduire, et c'est vrai. Bon, alors, je vais prendre d'abord la Bible. Quand Dieu a envoyé Moïse à Pharaon, il lui a dit, bon, ben, tu vas aller chez Pharaon, hein, tu lui diras que je l'invite gentiment à vous laisser partir, mais comme il voudra pas, alors tu vas jeter ta verge par terre devant lui, et le signe du serpent, la verge, deviendra un serpent vivant. Bon, Moïse tout content, tout fort, ah oui, ça, il n'avait jamais vu un miracle comme ça, si ce n'est au jour où Dieu lui a parlé dans le buisson ardent. Il va, il avertit les Israélites que Dieu va les délivrer, puis il va chez Pharaon. Pharaon dit, oh, qui est ce Dieu que je le serve? Et Dieu lui dit, ben, mon Dieu, c'est celui-là. Il jette le bâton, il dit, voilà ce que tu peux faire. Et le bâton devient un serpent vivant. Et Moïse, je suis convaincu que dans son cœur, il dit, ça y est, maintenant, il est convaincu, l'autre. Pharaon, il dit, cherchez-moi les magiciens. Cherchez-moi mes devins. Il appelle, ils viennent. Et alors, je suis convaincu que Moïse a dû ouvrir gros les yeux. L'un jette son bâton, il devient un serpent vivant. L'autre jette son bâton, il devient un serpent vivant. L'autre jette son bâton, il devient un serpent vivant. La même méthode, le même résultat. Ça voudrait dire que si Moïse revenait chez nous aujourd'hui et qu'il jetterait le bâton devant nous pour devenir un serpent, on dirait ça c'est occulte puisque les magiciens l'ont fait, c'est pas de Dieu. Vous me suivez là? Je répète, si Moïse venait au milieu de nous ce soir et qu'on se mette à jeter le bâton par terre et qu'il se mette à jeter le bâton par terre et qu'il se transforme en serpent vivant, nous dirions que ça, c'est pas de Dieu, ça frise la magie et la sorcellerie. Et c'est vrai que des sorciers africains font ces trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai parlé aux étudiants. Nous avons un pasteur pygmée. À l'âge de 12 ans, il a tué son premier homme pour avoir le don de se métamorphoser en animal. Ouais, le sorcier qui lui a donné le don lui a demandé une vie humaine à la place. Et il m'a raconté comment il faisait, il buvait du bois fort en magie, torsadait des lianes, invoquait l'esprit, par exemple, l'esprit qui était dans la région, des animaux qui étaient dans la région. Et il dit, au moment où l'esprit le pénétrait, lui ne se voyait pas changer, mais les gens alors voyaient l'animal. Et à ce moment-là, il avait animé d'une force, il pouvait tuer, il pouvait faire n'importe quoi. Les gens voyaient un animal qui tuait. Mais ici, vous dites ça en France. Vous avez de la chance si on ne met pas à l'hôpital psychiatrique. C'est des réalités. Il faut sortir de notre intellectualisme. Il faut savoir. Ce matin, dans mon culte personnel, je disais Ézéchiel qui est transporté. Il est en captivité à Babylone et il dit que Dieu l'a pris et l'a fait promener au milieu de Jérusalem. Vous êtes déjà promené à Grenoble? C'est une belle ville. Ça paraît... Notre intelligence ne comprend pas les choses de l'esprit. Il faut mieux lâcher et croire à l'esprit. Alors notre intelligence pourra être éclairée. Nous ne pouvons pas capter Dieu avec notre intelligence. C'est lui qui doit illuminer notre intelligence. Sinon, ça n'ira pas. Alors, je dirais, donc, ce que je veux conclure par là, quand même conclure que le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Donc, il y a eu les mêmes miracles, mais pas le même esprit. Et l'esprit de Dieu est bien plus fort que l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur des mauvais esprits. Il faut les chasser. C'est tout. On ne discute pas, on le chasse. Vous savez, on a parfois les jeunes dans l'église, hein, je crois que c'est sûr, quand on est jeune, on a tellement dit, Jésus qui a interrogé le démoniaque de Gadara, qui tu es, quel est ton nom, dis-moi ta carte de visite, etc. Non. Je plaisante un peu, hein. Mais, alors, il y en a, un jour, il y avait un groupe qui s'occupait d'une femme. Alors, au nom de Jésus, dis-moi ton nom, au nom de Jésus, dis-moi ton nom. Et tout à coup, elle dit, Julie. C'était son prénom. C'était son prénom, la pauvre. Pourquoi je dis ça? Je peux rigoler un peu, mais faites attention, en interrogeant les esprits, on peut tomber dans le spiritisme. Ce n'est que dans une direction claire qu'il faut le faire avec une assurance, parce que d'abord, ils sont menteurs, hein, ils vous raconteront n'importe quoi, mais deuxièmement, ils peuvent vous rendre dépendant de leur révélation. À rentrer dans les détails, mais des gens qui m'ont dit, mais Dieu m'a parlé, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Je dis, on m'a prié au moment où j'ai délié de cette voix, de cette puissance, paf, le démon s'est manifesté. Parce que là, la séduction existe. Parce qu'on a ouvert. Dieu ne nous a jamais dit qu'il fallait interroger les démons pour savoir qui ils sont. Dieu nous a dit d'interroger l'Esprit Saint. Alors s'il y a, moi je crois que Jésus l'a fait au démoniaque, mais c'était une confrontation ouverte, c'était déjà clair. Hein? Mais il dit, quel est ton nom? Légion, le gars. Il y a des moments où dans l'autorité de l'esprit, quand vous sentez que l'esprit fuit, si vous arrivez à savoir son nom, ou vous l'avez par révélation, ou vous sentez dans l'autorité de l'exiger qu'il vous le dise, ce moment-là, dès que vous savez son nom, sa nature est à la lumière, alors vous pouvez le chasser. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas donner son nom, c'est pour ça qu'il va donner des faux noms. Donc, il faut avoir un discernement, il faut avoir une stature pour pouvoir faire ce genre de dialogue. Hein. Mais, revenons, donc souvent les méthodes entre l'occultisme et le nouvel âge, parlons-en des gens qui marchent sur le feu, Jésus a marché sur l'eau, hein. Des choses étonnantes qui se passent, la démultiplication, hein. Par exemple, on prenait les trucs, les religions orientales, etc. Eh ben, ça marche. C'est souvent la même chose. Je dirais parfois, il y a eu un temps où l'occultisme avait plus de guérison que l'église évangélique. Ça marche. Mais l'un lit et tue, tandis que l'autre affranchit et libère. Pas le même esprit. Donc, nous ne devons pas regarder aux apparences, nous devons discerner l'esprit qui est derrière. Alors bien sûr, si quelqu'un vient avec un pendule en disant « c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça », vous avez compris, ça n'a rien à voir. Là, c'est des méthodes fausses. Hein. Mais les méthodes, par exemple, je prends un frère qui est assez spontané. Quand sa spontanéité, ça écrit parfois des problèmes, mais ça n'empêche pas qu'il a l'Esprit de Dieu aussi. C'était Ismaël, Sadok, vous connaissez? Un jour en Afrique, il avait son verre, le prédicateur, il était dans une chapelle. Eh bon, vous savez, ça fonçait. Tout à coup, il y a un gars qui vient, j'ai mal à la gorge. Il n'a pas réfléchi, il a dit, t'as mal à la gorge, au nom de Jésus, bois. Le gars avale le verre, guérit instantanément. Je n'ai pas lu ça dans les évangiles que Jésus a dit, il faut faire avaler un verre d'eau pour qu'il soit guéri de la gorge. Et pourtant, il était guéri. C'est l'intuition de la foi. Quand Jésus a craché par terre, vous savez, si les pharisiens étaient là, eux qui connaissaient leur Bible jusqu'au bout des ongles, ils auront dit quand même, c'est pas hygiénique ce truc-là. Mais c'est vrai. Si je vous crache par terre, je vous prends un peu de poussière, je vous le colle dans les yeux. Ou si je prends ma salive, je vous le colle sur la langue. Quand vous êtes bon chrétien, vous allez me pardonner, mais vous revenez plus à l'imposition des mains. Regardez maintenant ça. Jésus a fait un miracle dont il n'a vu aucun exemple. Vous ne trouvez aucun exemple avant dans la Bible. Il a innové. Parce que c'était pas écrit. Alors c'était du diable. Mais non, c'était pas du diable, c'était Jésus, le Fils de Dieu qui l'a fait. Et nous sommes entrés dans ce même carcan évangélique de la lettre, hein, où parce que c'est pas écrit, c'est pas de Dieu. Non! tant que c'est conforme à l'esprit des Écritures et que ce n'est pas contraire aux Écritures, rien ne prouve que c'est du diable. Il faut nous affranchir de ce côté idolâtrie biblique, littérale. Nous devons aimer la Bible. Nous devons refuser tout ce qui est contraire à la Bible. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dedans, c'est vraiment pas écrit que je dois aujourd'hui mettre ma cravate rouge. C'est vraiment pas écrit dans la Bible. Mais, bon, le goût inspiré, ou non, il y a des raisons pour lesquelles je peux le faire. Mais il y a des choses que vous êtes obligés de faire parce que ça n'existait pas à l'époque. Au siècle des ordinateurs, aujourd'hui, il n'y avait pas d'ordinateur au temps de Jésus. Mais quand dans la foi, tu es amené à imposer les mains à l'ordinateur pour qu'il refonctionne, et il refonctionne, alors tu vas dire, mais Jésus n'a pas fait ça, c'est le diable. Mais c'est comme ça qu'on raisonne maintenant. Je me rappelle un jour, à la deuxième année d'école biblique, on avait un vieux frère, bien traditionnel, bon, qui a voulu suivre l'école biblique à l'âge de 75 ans. Aïe, c'était bon. Bon, il venait que 2 heures par jour. Manque de chance, il est tombé sur un prédicateur américain qui parlait du réveil en 1906 aux États-Unis. Et il racontait comment un jour, un des prédicateurs, en cours de route, il y avait une réunion urgente, la voiture crève, le pneu crève. Il a dit, il est descendu de la voiture, il a imposé les mains au pneu, le pneu s'est regonflé, il a filé jusqu'à la réunion. Le frère, il s'est levé, il dit, ça, c'est faux, ça n'existe pas, il est parti, il a quitté l'école biblique. Parce que Jésus, on l'a bien vu dans la Bible, il n'a jamais regonflé un pneu. Alors, je taquine un peu pour vous dérider, mais c'est comme ça. Parce qu'on a, écoutez voir, je veux dire quelque chose, on a tellement peur du diable. On a tellement peur du diable, hein, alors qu'on devrait avoir foi en Dieu. Et quand quelqu'un vous dit, on dit souvent, mais attention, la séduction, c'est peut-être pas l'Esprit de Dieu, mais est-ce que tu connais le Saint-Esprit ou tu le connais pas? Si tu connais le Saint-Esprit, à 3 mètres, tu sens la présence. Quand en tant que serviteur de Dieu, je peux vous le dire, quand on est dans une réunion, quand il y a quelqu'un qui pratique l'occultisme dans notre auditoire, on le sent. Ça sent! Ça sent! C'est du gaz carbonique qui est là. Ça sent. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est un esprit contraire à l'esprit de ténèbres qui est là. Et la première méthode de discernement des esprits, c'est simplement la rencontre de 2 esprits différents. Si toi, tu marches dans la lumière, tu sens les ténèbres. Maintenant, si t'es pourri, alors tu sens plus rien du tout, puisque le mal est en toi. Mais si tu n'es pas dans le péché, alors tu as de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et vous savez, j'avais donné ça le jour-là. Un truc de Jung des choses. Vous savez, quand certaines banques, quand ils font la caisse, cette idée là quand ils forment les caissiers, eh bien ils le font asseoir et pendant des heures et des heures, le gars compte des billets. Il palpe les billets, il les compte. Compte, etc. Au bout de je sais pas combien de jours, tout à coup, sans rien lui dire, ils lui ont glissé un faux billet au milieu. Le gars, il est là, il compte, et tout à coup, il n'a pas réfléchi, il n'a pas eu le microscope, il n'a rien eu. Au moment où il touche le billet, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Il regarde, c'est le faux. Si tu es habitué au Saint-Esprit, immédiatement, tu sentiras le mauvais esprit. Ce n'est pas la même nature. Donc ce qui compte, ce n'est pas tes dogmes, tes conceptions, ce qui compte, c'est l'esprit qui agit. Et ça, c'est important. D'où l'importance d'avoir du temps avec Dieu, de communier avec Dieu et avec sa parole, et de nous pénétrer pas seulement de la lettre de la parole, mais de nous remplir de la vie, de l'esprit de la Bible. L'esprit qui est derrière la lettre. Et si vous êtes rempli de ça, vous détectez 1 kilomètre les puissances du mal. Alors, je dirais donc, ne pas avoir peur de voir certaines formes d'actions surnaturelles ressemblant à celles des occultistes, car le diable a copié Dieu et les lois spirituelles. Ce qui défère, c'est l'esprit qui est derrière. Et ce n'est pas parce que nous revenons maintenant aux choses de Dieu, dans la liberté de l'esprit, dans tout ce que l'esprit de Dieu peut faire. Vous savez, un jour, dans mon église, j'ai eu un problème monstre. J'avais invité toute une série de responsables, nous étions 120 hommes et femmes, et j'avais fait venir un ministère prophétique particulier d'Australie, qui, lui, mettait en évidence, justement, ces actions du Saint-Esprit. Et voilà que, devant mes chrétiens, moi, j'avais été averti, j'étais au courant, mais j'avais jamais osé le renseigner, ça encore, je pensais que c'était trop fort pour mes vieux chrétiens. Eh ben, là que lui, innocemment, descend de l'estrade, et il commence à faire des touches, à faire des paroles, à souffler, à tout. J'ai eu la révolution dans mon église. C'était trop fort maintenant, ils le croient. Mais sur le moment, c'était trop fort. Parce qu'il y en a qui disent, mais les guérisseurs font comme ça. Ah oui, ils font comme ça, les guérisseurs. Mais seulement, vous les payez. Je peux vous dérider 2 minutes. Un jour, il y a eu un homme qui avait vraiment des maux de tête, depuis des semaines. Chercher médecin après médecin, médicament après médicament, il a tout essayé, rien à faire. Le gars, il avait vraiment mal. Alors, il cherche, tout à coup, dans le journal, il trouve, je ne sais pas comment on l'appelait, le Suisse, là, le Tribune de Genève, hein, il trouve Monsieur Tartampion Rastatopoulos, hypnotiseur, guérisseur, guérison assurée, adresse, téléphone. Il dit, ah, voilà ce qu'il me faut. Ne rigolez pas, plusieurs d'entre vous y êtes allés comme ça, hein. Alors il se téléphone, monsieur, le hypnotiseur, j'ai mal à la tête, bon, ils prennent rendez-vous. Arrivé à la porte, il sonne, un grand gaillard barbu. Oh, monsieur le hypnotiseur, magnétiseur, vous savez, j'ai mal à la tête. J'ai mis tout mon argent dans les médecins, ils n'ont rien pu faire. Ah, dit l'homme, mon cher, vous avez frappé à la bonne porte. Mais entrez. Et il le fait asseoir, grand fauteuil, lumière tamisée, tranquille. Bon, l'autre est là, il rit. Bon, tout à coup, l'homme se place devant lui, il dit, monsieur, Adrien, regardez-moi dans les yeux. Donnez-moi la main. Dites, je suis guéri. L'autre, il est là. Je suis guéri. Bon. Le hypnotiseur, il lâche la main. Bon, ça arrête, plus rien. Alors lui, il dit,
c'est tout.
Oui, il dit, non, oui, monsieur, c'est tout. Vous êtes guéri, ah, si, vous me devez 200 francs. Alors l'autre, assis dans son fauteuil, tout à coup, il a le réflexe insensé, mais pas, il dit, tout à coup, il a une idée, il dit, monsieur le hypnotiseur, l'autre, il dit, oui.
Regardez-moi dans les yeux. Oui. Donnez-moi la main.
L'autre, main.
Dites, je suis payé.
Enfin, j'espère vous avoir convaincu que la foi chrétienne, c'est pas ça. La foi, c'est l'assurance fondamentale au fond de vous-même que vous avez ce que vous avez demandé. C'est la substance. Vous avez ça au fond de vous. Je prends le langage du frère Jung Guichaud. Lui, il dit, vous êtes en train de l'incuber, de, comment il appelle ça, de l'enfanter. Hein. C'est la substance, vous savez. Ça prend du temps, ça prend de la prière. Mais ce n'est pas parce que tu l'as pas que la Bible, elle, n'est pas vraie. Elle est vraie, seulement il faut que ça rentre en toi. Il faut que tu te bagarres avec tes pensées, etc. Alors, je vais parler de quelques points, parce que le temps est avancé. Aimons parler de quelques points encore. Comment, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Vous avez remarqué que certains qui viennent aux réunions, on leur impose les mains. Bon, en bon chrétien qui connaît sa Bible, vous avez dit oui, c'est conforme. Marc 16, verset 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, chassons les démons. D'accord, ils font un peu de bruit, c'est embêtant, mais enfin. Hein. ils y prennent quelques breuvages mortels, ça c'est déjà plus hésitant. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Et vous êtes tout à fait d'accord avec l'imposition des mains. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Je ne dis pas ça au niveau de la connaissance, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement au niveau de la vie? Pour que ce soir, la vie puisse te toucher quand on t'impose les mains. Eh bien, simplement une chose, le toucher, il y a le geste de la bénédiction, il y a le geste de la couverture, il y a le geste de l'identification, il y a le geste de l'intercession, je n'ai pas le temps d'expliquer tous ces termes, mais enfin ça se comprend. Mais il y a également le geste de la communication, c'est comme un interrupteur, un point de contact qui se met en action, et le courant passe. Ou le courant vient d'en haut, directement dans la personne, ou le courant passe du corps de celui qui vous impose les mains dans la personne. La femme atteinte d'une perte de sang, quand elle a touché le port du vêtement, Jésus a dit, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Les guérisseurs ont également du fluide. Mais le pasteur, normalement, ou l'évangéliste, ou celui qui prie, ou le frère qui prie, ou la sœur qui a un don, je ne sais pas, qui prie pour vous, n'a pas de fluide. C'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers d'elle. Ce n'est pas pareil. Le fluide est naturel, ou plutôt il est occulte naturel, tandis que l'Esprit de Dieu, lui, est surnaturel, divin. Ça vous explique que l'imposition des mains, s'il n'y a rien derrière, c'est du vent, c'est un massage pentecôtiste. Mais s'il y a quelque chose derrière, si vos mains sont ointes, si votre corps est rempli, regardez hier soir, il y a une personne, je ne vois un peu plus qui c'est, s'est avancée, il a des difficultés. À un moment donné, je lui dis, mettez vos deux mains sur mon épaule, sur mes épaules. Pourquoi? Parce que je voulais créer, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas, elle a fait, mais je voulais que simplement l'onction qui était sur moi, tranquillement, elle devienne un. Alors tout à coup, boum, c'est venu. C'est l'union, c'est la communication. Il y a ainsi la communication des dons qui se fait au travers de cette onction qui se communique. C'est une communication de vie, ce n'est pas une communication de méthode. Alors, le toucher, j'ai pas. Par exemple, regardez, c'était hier matin, je crois, ou avant-hier matin à l'école biblique, je voulais leur faire une démonstration un petit peu du toucher. J'avais donc demandé à un jeune, quelqu'un qui avait une dame, quoi, qui était, bon, sa colonne vertébrale. Bon, elle est avancée et devant tout le monde, son bras a rallongé. Alors, j'ai demandé à un autre, il y avait un autre gars qui s'est levé. Et bon, et je l'ai fait asseoir. Et je dis, mais maintenant, c'est plus moi qui vais prier, c'est toi qui vas commander à la jambe se redresser, au bassin de se redresser. Mais au moment où il a voulu le faire, je me suis rendu compte qu'il n'a même pas, ni moi, ni lui, nous avons eu le temps de prier. Pendant que je disais, tu vas le faire, le pied s'était redressé. C'était l'onction qui était là. Et le fait que je touchais avec le bout de mes doigts faisait que le processus de guérison avait commencé. Je n'avais même pas prié, c'était une communication d'onction. Je vous familiarise avec l'onction. Il faut que vous entreteniez l'onction. C'est l'onction qui guérit, c'est l'esprit qui guérit. Ce n'est pas notre connaissance de la Bible. C'est l'onction qui vient par notre connaissance de la Bible. Ça, c'est important, le toucher, la communication de l'onction. Et je vais dire quelque chose, quand dans une réunion, regardez comme hier soir, bon, je ne connais pas très bien votre... Donc, vous venez d'horizons différents, mais regardez quand un moment de louange, parfois. Il y a des moments où l'onction est sur un auditoire. Hein, quand vous sentez une unité parfois, eh bien, parfois, il y a un courant qui vient. Un courant. Et à un moment donné, on peut dire que maintenant, tous ceux qui ont des maux d'oreilles saisissent leur guérison. Ce n'est pas le moment de s'occuper du nombril, c'est le moment de s'occuper des oreilles. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je rigole un peu en prenant le nombril. C'est par vague, par nature d'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Un jour en Inde, je ne parlais pratiquement pas l'anglais. La personne qui me traduisait parlait très mal anglais. Elle me traduisait du français à l'anglais et on traduisait de l'anglais à l'indien. Et il y avait 9000 personnes dans ce c'était la nuit. Dans un truc avec plein de tapis, vous savez, c'était pénère. Et le frère me demande de prier pour la guérison des gens. 9000 personnes qui ne vous comprennent pas, vous n'avez pas. Alors je les ai demandé à tous ces gens-là, péniblement, la productrice a pu dire, levez-vous. C'est levé. Et alors je leur ai expliqué que les guérisons viendraient par tranches. J'ai d'abord commencé par la délivrance. Je leur ai demandé de proclamer que Jésus-Christ a été libéré de tout esprit. Orientale, divine réincarnation, etc., de magie, sorcellerie. Hein. J'aurais fait proclamer ça. Ensuite, j'ai dit que ceux qui avaient des problèmes dans les dos lèvent leurs mains, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé ensuite à commander. Je me suis dit, et par série, j'ai commencé d'abord par la délivrance. J'ai commandé à tous les esprits de magie, de sorcellerie, de réincarnation. Il y avait 9000 personnes, vous ne pouvez pas voir, c'était nuit. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'était pauvre. Je voyais pas. C'est terrible de marcher dans l'aveuglette comme ça, par la face. Je voyais aucun résultat, moi. Uniquement basé sur la foi, les yeux fermés, je commandais. J'entendais bien un brouhaha, mais je ne savais pas si c'était le brouhaha indien ou... Je ne savais pas. Et puis j'ai commencé à dire maintenant que toutes les personnes qui ont des problèmes de colonne vertébrale, des problèmes dans leur squelette, lèvent la main, tendent leur main. Au nom de Jésus, j'ai commandé à leurs os de se redresser, etc. Puis j'ai continué pour toutes sortes de maladies, je ne me rappelle plus. Puis j'ai terminé par la délivrance, j'ai commencé à dire... Alors, bon, il y avait un brouhaha. J'ai simplement vu que les gens s'avançaient. Le responsable dit, maintenant il faut que tu partes. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient me sauver, j'ai compris le lendemain, parce que les gens me couraient après pour vous saisir, pour vous toucher. Hein. Alors, je suis parti. Et ce qui était tragique, j'étais accompagné, enfin j'étais pas, il y avait en visite des missionnaires d'un pays du nord de l'Europe. Et eux étaient totalement contre la méthode que j'avais utilisée. Pas d'accord. Jésus n'a jamais fait comme ça, disait-il. Les apôtres, les pères de... Bon. Moi, j'étais malheureux, n'ayant pas compris. En plus de ça, j'ai dit, t'as tout craqué, détruit le témoignage, etc. Le lendemain après-midi, le responsable de ce rassemblement m'a dit, tu sais, j'ai oublié de te le dire ce matin, parce que j'étais dans un atelier avec les pasteurs. Il m'a dit, ce matin, j'ai demandé qui avait été guéri dans les 9000 personnes. Je leur ai demandé de s'avancer. 300 à 350 personnes se sont avancées et ont témoigné. Des délivrants, des guaves, des trucs qui disparaissent, des colonnes qui se sont redressées. Uniquement par tranches. Des guérisons. Si vous voulez, moi j'aimerais que ça arrive tout le temps. Des fois je raconte ça à mon église, ils disent j'aimerais bien que tu le fasses chez nous. Mais oui, mais nous on est des grenoblois, vous savez. Deux et deux pour un grenoblois, ça fait quatre. Notre problème, il est là. Hein? Mais je ne pense pas qu'il y a que les grenoblois seulement, même si on a une huile olympique. Hein? Alors, il y a le toucher. Il y a le toucher, être touché par quelqu'un, toucher un linge, je crois que je l'avais dit, toucher, regardez, dans votre livre, toujours, quand Dieu donne la description du temple à Ézéchiel, il lui dit quand les sacrificateurs rentreront dans le lieu saint, ou très saint, quand ils en sortent, il faut qu'ils changent de vêtements, afin que leurs vêtements ne sanctifient pas le peuple. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que dans leurs vêtements, il y avait une puissance. L'Ancien Testament dit que tout ce qui touche l'autel est sanctifié par l'autel. Ça veut dire que si toi, tu es le temple de Dieu, tout ce qui te touche est sanctifié. Et tout ce qui t'a touché est sanctifié. Ça veut dire comme un mauvais esprit peut accompagner une idole, un talisman, une amulette, un porte-bonheur, ça c'est le diable. De la même façon, l'Esprit de Dieu peut accompagner tes vêtements, si tu es un homme ou une femme réellement rempli de l'Esprit. Et si ce vêtement ne devient pas un talisman, mais devient un point de foi pour quelqu'un dans la direction de Dieu et dans la mouvance du Saint-Esprit. Et là encore, on en a fait des règles absolues, on impose systématiquement les mains, ça marche pas, si tu n'as pas la foi, ça marche pas, et tu n'as la vraie foi que si tu es dans l'esprit, mais quand tu le fais dans l'esprit, eh bien tu peux être, des gens peuvent être amenés à te toucher, et ils peuvent être guéris instantanément. Et je dirais que dans le tiers-monde, dans les pays pauvres, ils ont compris ça 100 fois plus que nous, parce qu'ils n'ont pas ces blocages que nous avons, intellectuels. Les gens vous touchent, il y a des guérisons. Ils n'ont pas ce problème-là d'orgueil que nous avons. Et ça, il faut le comprendre, c'est biblique, les gens touchaient Jésus, ont sauté sur Jésus, il a fallu qu'on mette Jésus dans une barque parce que les gens sautaient sur lui, et il est écrit dans ma Bible que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Regardez, un jour, Jésus arrive dans un village, on a meute, on sait qu'il arrive, après son passage, à travers du, après avoir marché, il arrive, tout le monde sait qu'il arrive, on a meute tous les malades du coin. Hein? Et puis tous ceux qui s'approchaient lui demandèrent, on lui demanda la permission, simplement que les malades puissent les toucher le bord du vêtement. Vous vous rendez compte? Ils ont demandé la permission de simplement. Et il nous a dit que tous ceux qui le touchaient furent guéris. Mais je vous dis que la guérison, Jésus l'a accomplie à la croix. Elle est pour tous. Elle est pour tous. Alors le toucher, il y a la parole de connaissance, une image mentale, spirituelle. Alors là, j'aimerais vous dire, par exemple, bon, j'ai pas le temps de donner des témoignages, mais une image mentale, je voudrais le dédramatiser. Vous êtes venu en voiture, vous voyez intérieurement là où vous l'avez garé. Vous pouvez voir, votre voiture, c'est une image mentale. Il n'y a rien de surnaturel, rien d'occulte. L'être humain a la capacité de voir des réalités, alors par son imagination, elles sont là. Et ça correspond à la vérité, parce que c'est réellement là qu'elle est, là où vous la voyez, puisque vous savez vous qui l'avez mise. Hein? Moi, je vois ma voiture garée devant le frère, j'ai aucun problème pour ça. Elle est réelle. C'est cette capacité. Donc, il y a, si vous voulez, dans les paroles de connaissance, c'est justement cette faculté qui est touchée par l'Esprit de Dieu, et qui, à un moment donné, nous permet de voir des choses que nous n'avons pas vues, mais c'est la même façon qu'elles apparaissent. Je peux voir une fontaine, je peux voir, je ne le vois pas en chair et en os, je le vois comme une image mentale. Comme je vois ma voiture garée, je vois la chose. Et à ce moment-là, je me mets à interroger. J'interroge, demande, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'attends l'interprétation de ce que je vois. Mais je peux également voir un verset de la Bible, et alors, avec les yeux, ainsi mes yeux intérieurs, et alors je peux prendre la vérité que cette Bible représente, que ce verset représente. Là, c'est moi qui prends par la foi. C'est ma main qui saisit la vérité. Et à ce moment-là, elle devient esprit et vie en moi. Et une parole de connaissance qui est dite nécessite également la foi de celui pour qui elle est. Parce qu'il faut qu'il y croie, qu'il la prenne et qu'il la mange. Et elle devient esprit et vie en lui. C'est important, vous comprenez cela. Il y a... Je pourrais vous donner des centaines de témoignages, centaines, mais disons au moins quelques, parce que pas toujours tout vérifier, mais des dizaines de témoignages pour justement montrer que la parole de connaissance est importante. J'ai vu des trucs comme ça, important. Ou alors vous pouvez aussi sentir la douleur. Mais là, tout à coup, on sent qu'on a mal. Moi, je peux dire, quelqu'un ici dans l'auditoire a mal ici. Parfois, on peut voir, tout à coup, il y a comme une pensée qui vient, il y a quelqu'un qui a un problème de couple. Hein? Il y a... L'autre jour, il y avait un jeune qui, c'était un culte de dimanche matin, je voyais une poitrine, je voyais comme un, enfin, je voyais pas, c'est, je voudrais pas vous tromper sur les mots, parce que souvent les mots confondent les gens. Non, j'ai une sorte d'image simple, je pensais à une poitrine, des poumons malades. Et j'ai dit, quelqu'un a des poumons, des problèmes dans ses poumons, que cette personne saisisse maintenant la guérison. Il y avait un jeune dans la salle, il avait, je sais pas, attrapé un virus dans ses poumons qui était inguérissable. Et bon, il a capté ça. Et quand il est rentré chez lui, donc quelques jours après, il a eu la visite médicale, totalement guéri. Mais plus que ça, non seulement il a été guéri, mais sa guérison a formé un anticorps. Et maintenant, il ne peut plus jamais tomber malade de cette maladie-là. Ça, c'est Dieu, quoi. Il y a sentir la douleur, recevoir une parole de guérison ou de consolation qui apporte la délivrance. Dieu envoie la parole d'une façon ou d'une autre et il la guérit. Il y a aussi Bon, ça, je l'ai dit. Il y a le fait aussi de voir notre maladie sur Jésus. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Élie, ah non, c'est chez les étudiants. Élie a dit à Élisée au moment de son départ, « Si tu me vois, quand je serai en lit avec toi, ça t'arrivera. » Et vous devez demander au Seigneur qui vous donne d'avoir ses yeux de la foi, de l'esprit, développés pour que vous puissiez voir les réalités de Dieu, puissiez voir votre maladie sur la croix du calvaire, puissiez voir les meurtrissures de Jésus par lesquelles vous avez été guéri. Le regard de la foi, c'est pas de la visualisation forgée par la pensée positive, mais c'est le regard de la foi. Alors, maladie sur Jésus, mais l'apôtre Paul dit « Je vous ai dépeint Christ ». Oh, quand on décrit le Christ à la croix, il se produit toutes sortes de choses dans le regard de foi de ceux qui entendent et qui commencent à voir le Christ. C'est important. Et puis, il y a également, j'ai parlé du toucher, la vision, le geste. Le geste, j'avais raconté cela, je crois, où dans un rassemblement, on avait réalisé qu'il y avait comme une nuée d'argent sur l'auditoire. Et j'avais demandé que tous les chrétiens qui avaient la foi pour croire et voir avec le regard de la foi, cette nuée sur eux, spirituellement, se lève. À mon grand étonnement, les deux tiers de l'auditoire se levaient. Et je dis maintenant, puisque vous êtes partis, touchez avec votre main, touchez maintenant cette nuée. Il n'y avait rien de visible. Eh bien, les deux tiers, tous ces gens qui ont levé la main, au moment où ils ont levé la main pour toucher dans l'invisible, la puissance de Dieu les a traversés. Il y en a qui sont tombés par terre et des guérisons, il y a eu des délivrances. Et ensuite, il y a eu une vague de rire incroyable, comme on l'a vu l'autre soir, là. Pendant 2 heures, ça riait. Il y avait des guérisons étonnantes. Alors, il y a le geste, parfois. Et donc, dans la louange, il ne faut pas hésiter, parfois, quand vous sentez... Mais le geste, par lui-même, n'est pas une technique qui va nous mettre Dieu dans notre côté. Mais le geste doit correspondre au geste intérieur de notre esprit. Et notre geste physique n'est que le prolongement de l'attitude intérieure, de notre homme intérieur. À ce moment-là, votre geste prend tout son importance. Et votre geste va avoir une puissance. Quand Moïse a prié sur la montagne avec Aaron et Hur, tant qu'il levait les mains, Josué gagnait. Quand il baissait les mains, Josué perdait. Le geste physique a de l'importance. Et si vous êtes un chrétien classique qui ne bouge jamais, qui ne fera jamais de geste, vous serez peut-être sérieux, mais vous raterez 80% de miracles dans votre vie. C'est comme ça. Alors, il faut comprendre le geste. Puis alors, je prendrai encore souffler. Souffler, ça, tout le monde a vu les cassettes vidéo, hein. Alors donc, souffler, qu'est-ce que ça encore hein? Bon, je vais vous dire comment, moi j'avais vu des gens le faire, mais j'étais pas très chaud, parce que c'est encore une nouvelle invention américaine, hein? Et un jour, je me suis retrouvé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans un rassemblement, et une femme s'est approchée. Et au moment où je lui impose les mains, je sentais, je réalisais que l'Esprit de Dieu était là. Il était vraiment sur elle, c'était vraiment sur elle, mais ça rentrait pas. Il y a des gens, c'est incroyable, l'Esprit est là, ça rentre pas. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas compris dans leur façon de capter, dans leur sensibilité spirituelle, je ne sais pas. Et j'étais là, je dis, madame, mais laissez-vous remplir de l'Esprit de Dieu, exercez votre foi, l'Esprit de Dieu, ça y est, détendu. Elle était là, elle ne me comprenait pas. Je dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Et puis bon, je dis, c'est fichu. Et à un moment donné, je dis, mais cette petite voix intérieure, vous savez que vous avez, que moi aussi j'ai. Je dis, mais tu devrais souffler sur elle. Souffler sur elle, ça y est, il se prend pour Benny Hinn, bien. Alors, si je vous dis honnêtement, j'ai appris à obéir, alors j'ai vraiment fait attention que personne ne regardait. J'ai posé mes mains et ça n'était vraiment pas grand-chose. Mais vous ne croirez pas au même moment, pas la boum, la puissance de Dieu est tombée. Mais 3 jours après, ce qui était le plus étonnant, c'est que 3 jours après, elle a témoigné. Cette femme avait dans son cerveau un problème depuis des années. Dépenser l'argent, tout. Et quand elle s'est approchée à l'imposition des mains, elle avait vu d'autres tomber. Elle a dit, moi, je ne veux pas tomber. Bon, je pense que c'était ça qui avait déjà le blocage. Mais quand j'ai soufflé sur elle, elle a dit qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée à terre. À terre, elle a dit, mais qu'est-ce que je fais par terre? Et tout à coup, elle a senti une main qui fouillait son cerveau. Quelque chose qui est sorti par son nez. Elle était totalement guérie. Laissons Dieu être Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, Dieu ne donne pas un serpent si vous demandez un morceau de pain. Hein, il ne faut, quand même pas devenir blasphémateur. Hein, et si vous voulez, je dirais donc le souffle, je pourrais vous dire, je l'ai raconté, le stade à Bangui, hein, nous étions 12 000 personnes là, au terrain de basket, là, c'est toutes nos églises rassemblées, bien, tout à coup j'ai dit, bon, maintenant on va demander l'onction du Saint-Esprit. Et je me rappellerai toujours, j'ai pris mon micro, j'ai dit, bon, j'ai commencé à souffler. Et avec mon geste, je faisais la main, je faisais le tour du stade, comme ça sur place. À fur et à mesure que mon bras s'avançait, que je soufflais, l'Esprit de Dieu descendait. Il y a eu comme un vent dans cette salle. Les gens étaient estomaqués de sentir le vent de l'esprit, physiquement. Il y a eu des guérisons, il y a eu des trucs étonnants. Moi, j'en ai vu quelques-uns de loin, mais les preuves ont été faites 8 jours après, quand les gens sont retournés dans leurs églises, et on a pu vérifier des goîtres qui avaient disparu, des choses. Le souffle de Dieu, ça existe. Jésus a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas seulement imposé les mains en disant, recevez. Il a soufflé sur eux. Il y a des choses qui sont du domaine de l'esprit. Et puis, moi, je n'explique pas toujours. Hein. Et puis, enfin, tomber, je vais quand même vous dire cela. Tomber, pourquoi est-ce qu'on tombe? Parce que ça, quand même, hein, on peut tomber parce qu'on est fatigué. Mais ce n'est pas ça. On peut tomber parce que le prédicateur vous pousse. Ça, c'est sûr. On peut tomber parce que vous avez fermé les yeux, vous êtes penché en arrière, vous êtes désarticulé, vous tombez, vous avez perdu votre équilibre. Il n'y a rien de surnaturel, c'est simplement de la bêtise. Ou peut-être simplement, laissez aller, je suis un peu méchant en disant ça. Ça, c'est rien. On peut tomber tout simplement parce qu'on a vu les autres tomber en disant, si je tombe, je vais être guéri. Si je tombe pas, c'est que je ne suis pas guéri. Alors on se laisse tomber, on prend un bleu. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu es guéri. On peut tomber parce qu'il y a la pression psychologique de tout l'ensemble. On voit les autres tomber, on voit tout le monde qui nous regarde, tombera, tombera pas, alors je me laisse tomber. Ça, rien de spirituel, ça, c'est tout à fait humain, c'est psychique, c'est la pression, il n'y a rien de divin là-dedans. Hein. Bon, il y a des guérisseurs qui font tomber, il y a des hypnotiseurs qui font tomber, c'est le viol de la volonté, ça n'a rien à voir. Pour vous, quand vous avancez à l'imposition des mains, quand vous priez, pour vous, ne faites pas le vide mental. Ça, c'est les occultistes, c'est les ceux qui font le yoga, etc., qui font le vide mental. Non, vous gardez, vous avez la conscience de vous-même, mais vous regardez à Jésus. Vos yeux intérieurs fixés sur Jésus. Parce qu'il a dit, venez à moi. Celui a soif, qu'il vienne à moi. Je viens à lui et je bois par la foi. Et pendant que je parle, je peux boire, là. Pas besoin de prendre un verre. Le Saint-Esprit est là, je bois par la foi, je me remplis, jour après jour. C'est ça, boire. C'est simple, je ne rentre pas en transe, il faut que je bois. Non, pas. Je bois. Au volant de ma voiture, je bois. On m'impose les mains, je bois. Je chante des louanges, je bois. Je bois, je bois, par la foi. C'est tellement simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il peut se produire que, quand je suis là et que je loue, pas habitué au Saint-Esprit, je sens tout à coup mes genoux se dérober, boum, je suis à terre, je n'ai même pas compris ce qui arrive. C'est le surnaturel qui rentre. Naturel, comme il y en a un des deux qui doit céder, et c'est là que vous voyez ceux qui font là et qui ne veulent pas tomber parce qu'ils ont plus que fixé sur Jésus, ils pensent qu'est-ce qu'ont dit les autres. Ça, c'est le charnel, la naturelle qui s'oppose au surnaturel. Et puis, il y a ceux qui sont jamais tombés. Moi, je ne suis jamais tombé par terre. Jamais. Hein? Mais j'ai résisté, j'ai senti, peut-être que je n'aurais pas dû, mais bon, je ne suis pas tombé par terre. Ben, il y a d'autres qui, tout simplement, parce qu'ils sont tout entiers, ils ne réfléchissent pas, ils sont nature, hein, ils sont là, ils ne savent même pas ce qui vient, puis tout à coup, bloum, à terre. Il n'y a rien. Tant que c'est ça, c'est simplement une visitation, mais tu peux te relever en étant toujours malade, tu peux te relever en ayant toujours ton problème, parce que ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, Dieu te donnant un signe, là, il faut que tu exerces ta foi. À ce moment-là, si tu es sous cette onction-là, prends. Dieu passe toujours par l'homme, il ne fait jamais sans l'homme dans beaucoup de choses. Et dans la guérison, il veut passer par toi. Il y a ta part, tu es collaborateur avec Dieu. Au moment où tu réalises que quelque chose de l'inattendu s'est passé, c'est que Dieu te donne un signe. Alors prends ta guérison ou prends la promesse pour laquelle tu t'es avancé. Exerce ta foi. Tranquillement, tu bois la guérison. Tu bois l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va te remplir. Vous savez, et alors il va peut-être avoir de la rougeur, des tremblements, il va peut-être avoir tout à coup une douleur quelque part, une fraîcheur, tout à coup une paix profonde. Ou de la sueur, vous allez commencer à suer, vous allez peut-être vous mettre à pleurer, à rire, hein, etc. C'est toutes sortes de formes de guérison intérieure, d'action qui correspondent à notre psychisme, différents les uns des autres. Parfois, vous êtes simplement là, dans la paix, vous savez que vous êtes en train de recevoir, vous êtes debout. Le problème n'est pas que quelqu'un tombe, le problème c'est qu'il soit béni. C'est ça qui compte. Hein. Donc, soyons libres, mais soyons simples. Soyons entiers, regardons à Jésus. Et à ce moment-là, il y a des choses étonnantes qui se passent. Parce que c'est quand tu te laisses ainsi remplir, c'est l'Esprit qui vient en toi, qui te guérit. Amen.
Radio Certitude.
Radio Certitude, c'était le pasteur Pierre Truchel. Il nous a parlé sur ce thème, comment recevoir la guérison divine.
«
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.